Elsa when she looks like Elsa. I don't want to go to Chelsea. Oh no, that's not moving. Even though I see the movie, I don't want to check your pulse. I don't want nobody else. I don't want to go to Chelsea.
Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce Radio Shtoub spécial, évidemment, comme toutes les émissions Radio Shtoub qui a des infos, tellement d'infos qu'on va un petit peu casser le sacro-saint présentation des Radio Shtoubistes pour présenter les Radio Shtoubistes qui ne sont pas là.
Mais oui.
Je voudrais d'abord, paix à son âme, présenter Hathor, qui apparemment avait trop d'infos sur les transferts à venir et qui est donc n'est jamais arrivé jusqu'à Strasbourg depuis son exil du Mittel Alsace.
Il dérange.
Exactement.
Il en sait trop.
C'est comme Peng Shui.
Peng Shui.
Non, comment ça s'appelle la tennis,
tennis woman chinoise.
Ah oui. Ouais, on peut dire la tennis woman chinoise. C'est pas raciste. Et tout le monde voit qui c'est, alors que Peng Shui, moi je savais pas si c'était un pingouin ou un truc. Il dérange aussi JP Larky, bien sûr.
Lourd.
Le grand reset, confiné en Suisse, une nouvelle épidémie, un nouveau virus, on n'en sait pas plus.
Le Big Pharma.
Le Big Pharma. Restez, stay tuned sur le compte Twitter de JP Larky pour toutes les infos, hashtag nouveau virus. Blourg à JP Larky, évidemment. Alex Co. Qui dérange aussi, mais carrément disparu, évaporé. Il se faisait une joie de venir, fauché dans son plus bel âge. Heureusement, Rachmaninov est là.
Bonsoir à tous.
Voilà, merci Rachma, c'est un retour.
Back dans les bacs,
exactement.
Dans les bacs et pour l'accompagner, Roulian.
Toujours présent, fidèle au poste,
en grand chelem sur les déplacements du Racing depuis.
La fin de l'hiver 2023, je suis en grand chelem. Voilà. C'est un truc de dingue.
Mais depuis qu'on gagne.
Mais c'est grâce à moi que le Racing a redressé la barre.
Voilà. Mais d'ailleurs, tu as commencé ton grand chelem à Reims, qui était le dernier match que nous avions chroniqué.
Oui.
Magnifique victoire. Ouais, si, victoire, parce que si on les avait bien.
Exactement.
Vous avez bien.
C'était un super match.
Voilà. Et après cette victoire, alors on enchaîne tout de suite dans les matchs, on aura plein de trucs à dire, effectivement. Ancel, Bully, est-ce qu'il y a une nouvelle marque de Bretzel sur le marché? On ne sait pas. Plein de choses. Le nouveau maillot qu'on a vu, effectivement. Le prochain Tifo qu'on a vu. Enfin, tout ça, on en parle après. Mais tout de suite, RCS Lyon. RCS Lyon se dit, on vient de battre Reims.
Ajaccio juste avant, donc c'est deux victoires de suite.
Ah, deux victoires de suite. La passe de 3. Lyon est un petit peu faiblard. Ils sont coachés par un mec qui fait du golf.
Exactement.
Est-ce que c'est peut-être, il n'y a pas un coup à jouer alors, c'était un match qui était le samedi ou le vendredi soir
ou ouais, le soir.
C'était un match
vendredi
de soir.
Soir.
Vendredi soir.
Oui, vendredi soir, c'est vrai. Parce que, c'est pour ça que les Lyonnais n'ont pas pu venir. Oui, ils étaient en retard parce que c'était vendredi, ils ont dû travailler.
Évidemment.
Pas beaucoup de Lyonnais en tribune.
Bizarrement.
Bizarrement, ouais. Peut-être parce qu'ils étaient un peu dégoûtés du niveau de jeu de leur équipe depuis quelques temps, non? Ça doit sûrement être ça.
Bah oui, c'est des mecs qui adorent le football. Hein.
Évidemment.
Je me rappelle plus si elle a eu du match.
Bah, c'est à eux, c'est que Strasbourg ouvre le score.
Ouais, c'est ça, mais oui, bien sûr, évidemment.
En fait, c'est Lyon qui. Il y a un but refusé.
Oui.
Pour un hors-jeu vraiment de 3 cm,
c'est ça.
Un but magnifique qui est refusé. Finalement, on ouvre le score derrière, et après on s'en prend 2, et ça finit.
Oui, 2, genre dans le quart d'heure un peu fatidique avant la mi-temps. Enfin, on se dit
1 sur corner qui est quand même un petit peu évitable quand même, où il y a un corner et où le marquage est pas top. On pensait que c'était terminé ces histoires de marquage zone sur corner avec Kassar, qui est pas sûr. Et du coup, ouais, tu prends ce but, le gardien repousse bien, mais bon, après ça finit. Et après, il y a une super action où je crois que c'est qui part à l'abordage. C'est Aoulou, je crois, qui part à l'abordage et il perd la balle. Et du coup, on se prend un compte et Kakré, il ouvre le pied parfaitement pour un beau but lyonnais bien construit. Et on se dit, bon, 2-1 mi-temps, c'est quand même Lyon, mais on n'avait pas démérité, je pense, sur ce...
Non, surtout après l'ouverture de score. On se dit, c'est dommage d'avoir un peu flanché, quoi. Toujours, voilà, c'est un peu toujours ce truc-là avec le Racing. C'est l'impression que c'est les absences, hein, comme on rappelle un petit peu le match à Monaco, où on revient au score, on prend l'avantage, mais on a une absence et derrière un peu le talent de ces équipes calibrées pour la Ligue des Champions, mais qui jouent finalement genre une place en Conference League. Enfin, pas Monaco, mais elle nous rattrape. Et deuxième mi-temps, on fait une bonne mi-temps.
Ouais, on domine globalement, on méritait le match nul, mais on l'a pas.
Donc petit coup d'arrêt, mais oui, peut-être petit refroidissement de la machine pour pas trop s'emballer. Bon, on est déçu, mais ça va.
Bah, c'est toujours pareil, quand tu perds contre Lyon, tu perds contre une équipe qui est largement classée au-dessus de toi, même si eux sont pas très bons, tu fais quand même dans le contenu.
C'est un petit Lyon cette année, donc c'est un peu décevant, mais ça reste Lyon à la fois.
Et dans le contenu, tu te dis, ouais, il y avait moyen de faire mieux. Donc c'est quand même plus rassurant que les autres matchs où on accrochait des matchs nuls et on voyait pas le jour et on était châteux du début à la fin. Moi, ça m'a pas laissé une si mauvaise impression que ça, ce match-là.
Et puis bon, on a quand même complètement poutré Lyon à domicile il y a quelques mois, ça.
Là, c'était plus avec un contenu moins beaucoup moins
beaucoup moins abouti. Bon, on peut pas tout avoir quand même. Ça aurait été un peu le beurre et l'argent du beurre. Donc voilà. Derrière, bah le Racing va. Putain, en fait, on n'a pas joué beaucoup de matchs. Enfin, j'ai l'impression que c'est tellement loin. Parce que le Racing a tellement changé d'univers en fait. On est passé d'un univers dépressif. Hein. D'ailleurs, il y a plein de questions de Radio Choubis. Ça, c'est plus sur Twitter qui demande. Alors, comme JP Darky n'est pas là, c'est lui qui a les codes du compte Twitter de Radio Choubis.
C'est ça.
Alors, on a envoyé
un. Vous avez filé les clés du camion à JP Darky. Vous ne craignez rien, vraiment, vous avez une confiance absolue.
Bah, confiance aveugle dans le grand stratégaire.
Et oui.
Et donc, du coup, bon, on voit un peu les questions, mais il y avait des questions, j'ai vu, qui disaient est-ce que les radios Shtoubis vont s'excuser du pessimiste de la dernière émission où on annonçait un maintien, enfin une descente facile, une descente quasiment assurée.
Je suis vraiment déçu que tu dis ça parce que j'étais pas là à la dernière émission et le grand pessimiste, normalement, c'est moi. Donc il y aurait des gens qui auraient usurpé mon rôle dans Radio Shtoubis.
Disons qu'on s'est tous mis au diapason un petit peu de l'amorosité ambiance. Et effectivement, c'est vrai que maintenant, on a complètement changé.
On a une sacrée éclaircie, là, sur les 6 derniers matchs, quoi. C'est,
ouais, c'est ça, hein. C'est exactement les 6 derniers matchs.
Le pire étant peut-être les émissions le mois de janvier, où là, c'était vraiment... je pense qu'il n'y avait plus beaucoup de personnes qui croyaient au maintien.
Ah, moi, j'en connais qui ne croyaient pas du tout au maintien. Et qui n'y croient toujours pas.
Il y avait le topic des optimistes, hein, qui faisait un peu de résistance.
Ouais, voilà.
Ils étaient pas très nombreux.
C'est pas très nombreux. Et donc là, on joue en fait notre ce qu'on avait appelé un peu la finale. C'est ça, j'ai oublié un match parce que
non,
on va directement à Nantes. J'ai l'impression que c'est tellement loin tout ça.
Non, on va directement.
On va à Nantes. Et ça, on était à Nantes avec Roulian.
J'étais présent à Nantes. J'ai profité de la liaison aérienne à bas coût entre Strasbourg et Nantes pour me déplacer à Nantes. Comme environ 250 autres Strasbourgeois, à préciser, il n'y avait aucun bus organisé pour ce déplacement, donc 250 personnes.
C'est que des gens qui sont venus par un propre moyen, des expatriés.
Voilà, mais il y avait beaucoup de monde sur le parking, quand même, beaucoup de voitures, beaucoup de camionnettes immatriculées de la région.
Et on peut saluer Freeman. Freeman Bleu,
ah oui, okay.
qui était au match
avec une écharpe qui a fait baver bon nombre d'ultra présents, puisque c'était une écharpe un petit peu vintage que peu de gens possèdent, donc il était présent.
Il faisait beau en plus, hein, c'était.
Oui, il faisait même trop beau. Alors c'est bizarre, hein, toutes les planètes sont mal alignées, il fait beau, le parquage est plein, ça peut pas marcher là.
Ah, faut dire c'était une veille de jour férié aussi. Hein, il y avait.
Ouais.
C'est ça, c'était le.
Exactement, c'était le 7 mai.
Le 7 mai.
Ouais, le 7 mai.
Et il faisait effectivement très très beau et il a fait très très beau sur le terrain aussi.
Exactement.
Parce qu'on a affronté une équipe de Nantes qui était pas à l'aise dans ses baskets.
En perdition.
Et ça s'est vu. Vraiment facilement, on gagne 2-0, un but par mi-temps, sans vraiment... La seule occasion vraiment du match des Nantais, c'est à la première minute du match, où ils s'offrent un face-à-face avec Cels, brillamment gagné par Sels. Et sinon, ils ont eu le ballon, notamment en deuxième période, mais c'était une stérilité, hein. C'était affligeant, quoi.
En fait, c'est au-delà de la prestation du Racing. Là, on s'est dit, en fait, un vrai relégable, c'est ça, c'est Nantes.
Ça ressemble à ça.
Et nous, on ressemblait un peu à ça il y a 6 mois, mais aujourd'hui, ça fait de la peine pour Nantes, c'est qu'on a.
Et ils
étaient la tête dans le saut.
Ils avaient vraiment tous les atouts du relégable, c'est-à-dire que le public, ça marchait pas, ils ont fait un tifo, ça marchait pas, l'équipe sur le terrain, tout ce qu'ils faisaient, ça marche pas. Le coach, à la fin du match, qui répond à un interview, qui dit ouais, mais ça va venir, moi j'ai vu du bon. Donc le mec, il est négationniste, hein. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose qu'on peut dire sur Antonetti. Antonetti, j'ai l'impression qu'il voit les mêmes matchs que moi. Quand ça marche bien, il dit que ça marche bien, et quand ça marche pas, en fait, il y a moins de langue de bois, il se langage un peu.
Je sais pas si ça aide vraiment l'équipe, mais par contre, ça fait plaisir à lire le lendemain match.
Quand ça va pas, on en parlera plus tard, il y avait des matchs où c'était un peu moins bien, il te le dit. Et par contre, quand Boiré, lui, c'était l'inverse, quoi. Il nous dit, il a fait un bon match complet de son équipe, interview d'après match, non, mais ça va venir, moi, j'y crois dur comme fer.
Tu penses qu'il est sincère, il est sérieux, ou alors il dit ça parce qu'il est, il a les nerfs et du coup
il est formaté comme tous les entraîneurs, ils doivent dire exactement la même chose, il doit préserver son emploi qui a duré à peu près 12 heures après le match, hein. Il a été débarqué évidemment par la famille Kita qui l'ont remplacé par un mec du centre de formation,
Aristouille.
Aristouille, voilà. Celui qui rigole quand on le chapeau sous les bras.
Mais là, il faudra faire la liste des coachs virés après des matchs.
Ça a été fait.
Il y a Thierry Henry aussi.
Sabri Lamouchi. Il y a quelqu'un qui s'est amusé à faire. À rajouter, alors, je sais plus si c'est sur le chou.
Je sais pas s'il y en a plus que pour les autres clubs, mais il y en a quelques-uns là depuis quelques années.
Bah, on a des fois un peu le déclencheur. C'est les mecs qui disent putain,
on a
perdu.
Bon timing, surtout.
En fait, c'est que les mecs se disent putain, perdre contre Strasbourg, c'est vraiment la honte.
Autant on pouvait tolérer avant, mais là, c'est trop.
Et oui, alors, c'est vrai que moi, ce qui m'a le plus réjoui, hein. C'est de voir les joueurs du FC Nantes complètement perdus sur le terrain.
Tout va bien.
Attention, on n'est pas dans un hôpital. Hein. Petite blague pour nos amis soignants, casserole pour les soignants. Et donc, de voir les Nantais vraiment ne pas réussir à mettre un pied devant l'autre, les mecs sonner, et tu te dis, ils vont jamais s'en relever, ce qu'ils ont excellemment fait sur les deux matchs qui ont suivi, puisque Nantes a enchaîné avec un nul tout pourri où ils se font un peu voler, je crois, à Toulouse.
C'est ça.
Et en plus, alors, une magnifique défaite contre Montpellier, alors là, pfff, le
3-0, parfait.
3-0 à domicile, chef-d'œuvre.
Mais ça, en fait, on a envie de parler de Nantes, parce que. Sinon, Strasbourg, il n'y a pas grand chose à dire.
Sur ces trois matchs-là, ils ont marqué combien de buts, Nantes ? Rappelle-moi.
Bah, zéro.
Oh, c'est ça. Une
blessure. Mais vous qui étiez au match, j'ai l'impression quand même qu'au coup d'envoi, il y a un peu d'union sacrée, quand même. Le public, ça pousse.
Première
pas.
Minute, ils ont stockage, et après, la trouille. Les mecs ont joué 89 minutes, la peur au
ventre. Ouais, même le public, c'était pas la meilleure ambiance qu'on ait vue à Nantes par rapport aux années. Je sais qu'à la mi-temps, il y en a plusieurs qui ont dit que c'est pas la meilleure ambiance, on sent qu'ils sont un peu, qu'ils sont un peu stressés. Et alors, le deuxième but tout de suite en ouverture de seconde mi-temps, là, Diarra.
Le petit Diarra, là, qui se fait un petit slalom spécial de nouveau dans la défense.
Et là, ça a achevé tout le monde, joueur, public. Je pense que si les mecs avaient pu, si tout le monde avait pu quitter le terrain et le stade, tout le monde serait parti. Le mec savait que c'était foutu.
Vraiment.
Alors après, moi j'ai vu le match à la télé. L'homme de terrain a passé le dernier quart d'heure à espérer limite ça parte en vrille. Il y a des CRS qui prennent place derrière moi. Et puis, il n'arrêtait pas de. Les mecs commençaient à anticiper.
C'est des bonnes images, on est d'accord.
Et en fait, c'est absolument rien passé.
Alors, il y a eu un fumigène à un moment qui a fusé sur la. Un clignotant là, qui a fusé sur la pelouse. Je me suis dit, ah, parce que tu sais, tu te dis aussi, ah, peut-être ça va un peu d'animation pour la fin du match avant d'aller boire une bonne bière à la brasserie de l'Atlantique et de manger une pizza. Et non, en fait, non. En plus, on est sorti du terrain. Il y avait des supporters nantais qui sortaient, qui plaisantaient même avec des mecs au grillage qui étaient en train de pisser. Enfin, dans le parcage.
Les ultras de Nantes ont quand même attendu un peu leurs joueurs à la fin du match, mais la police a dispersé ça de manière républicaine, j'ai envie de te dire. Et il s'est rien passé, mais je sens qu'en fait, ils ont qu'un point en fait par rapport à Auxerre. Et donc du coup les mecs attendent vraiment, ils sont comme des cons, ils y croient encore quoi, parce qu'ils sont qu'à un point du maintien. Tu vois ce que je veux dire? Et ils peuvent pas dégoupiller complètement en se disant peut-être si on dégoupille maintenant il reste encore des matchs, on va s'en vouloir quoi. Mais je pense qu'ils attendent que ça. Dégoupiller.
Par contre dernier match.
Une Saint-Etienne l'an dernier.
Bah non.
Ouais.
La tribune Loire est fermée pour le dernier match.
Oui. Ça tombe plutôt.
Donc, en tout cas, sur ce match-là, le Racing était à livrer la marchandise, a fait un match comme on attendait, sérieux. On savait que Nantes doutait, il fallait les faire douter encore plus, leur mettre le nez dans le caca, et c'est ce qu'on a fait sur un pénalty malin, chopé par
Bellegarde.
Par Bellegarde, très malin, il devance le défenseur. Il fera la même chose une semaine après, d'ailleurs.
Il y a un défenseur nantais très naïf, hein, sur le coup, franchement, c'est à pleurer. Enfin, bon, ça nous est arrivé aussi il y a quelques mois, donc. Mais
on a gâché, hein. En fin de première période, on a eu tellement d'occases, on était que 1-0 à la mi-temps, je me suis dit, putain, on a gâché quand même en première période, j'espère que ça va pas nous porter préjudice.
C'est un peu le problème de ce Racing version Antonetti qui gagne et qui marque, mais on gâche quand même énormément, c'est fou.
Ouais.
On se dit que Diallo, il a 20 buts, mais potentiellement, et Gamero à son niveau de 9, les mecs pourraient être à 15 et 30 sans problème, en fait. Ouais. S'ils avaient un taux de réussite, chirurgical.
Bah, d'ailleurs, en parlant de Diallo, après le match de Nantes, une fois qu'on a gagné brillamment à Nantes, la semaine suivante, on jouait à domicile.
Exactement, nous recevions l'OGC Nice.
Équipe qui avait bien sûr dans sa tête l'idée de jouer la Coupe d'Europe encore sur un strapontin. Comme ils nous ont fait l'année dernière, ils nous ont passé devant ces petits enculés quand même. Faut pas l'oublier.
Tout en perdant leur finale de Coupe de France. En plus, double enculé-t-il, hein, comme on dit.
Et du coup, ils ont été comme attendu, c'est-à-dire ils ont été nuls à chier.
Non, c'est vraiment une équipe de merde. C'est vrai. Là, il y avait un consensus sur le forum à ce sujet, mais.
C'est vrai qu'ils ont pas vraiment vu le jour. Bah déjà un but, alors la spéciale, même ma mère me dit maintenant, Diallo, c'est le mec qui marque plus vite que son ombre le lundi matin. Donc Diallo, il fallait pas faire la file au stand de boisson. Hein. Moi je suis à peine rentré en tribune qu'il y a le but.
Ah ouais,
il a marqué au bout de combien de secondes là
Moins d'une minute là.
Ouais, c'est ça, il y a eu 14 secondes.
Je sais plus exactement.
C'est son troisième but dans la première minute quoi. Ça commence à faire beaucoup, quoi.
Ouais, c'est incroyable.
Et forcément, ça aide.
Ah bah, ça te met dans des bonnes dispositions pour faire le match. Surtout qu'en face, il n'y a pas non plus une équipe qui a vraiment envie de se faire mal.
Parce que sur le papier, il y a quand même des joueurs, en fait.
Il y a même plus que des joueurs. Parce que quand il fait des changements en deuxième période, quand il enlève des joueurs, il en fait rentrer des mecs qui sont au moins aussi connus que les mecs qui sortent.
Alors que nous, on connaît les mecs qui sont sur le banc.
Ouais. Alors qu'on connaît, appelle les autres.
Donc là, ouais, sur le papier, il y a une super équipe, mais finalement, Diallo, il nous fait son petit doublé des familles. Et puis, voilà. Quoi.
Alors, j'ai vu la hype Didier Diga, elle aussi, elle est passée. Hein.
Ouais, ça a chuté, quoi.
Ouais, c'est un peu. C'est toutes ces hypes. Ben, genre, je pense que c'est très difficile d'être entraîneur aujourd'hui. Genre, il n'y a personne qui a réussi vraiment à se maintenir à un niveau de hype. Genre, il n'y a personne qui est vraiment ouais, de tout le monde a une bonne passe.
Mais Reims, ça rentre un peu dans le rang. Lorient aussi par rapport à la première partie de saison.
Alors je sais même pas.
À 25 000 balles le match, ça fait chier quand même.
Ouais.
Je ne sais pas qui coach Clermont, qui est vraiment plutôt l'équipe qui fait la meilleure saison.
Castien, ouais.
Qui est le père de
Capitaine. Ouais. Ouais.
Comme quoi, en famille, ça peut marcher. Donc,
surtout vu les résultats de Clermont.
Bah, Clermont surperforme, c'est vraiment l'équipe qui surperforme, alors que c'est l'équipe la plus nulle que j'ai vue jouer à la Méno. Quand j'étais au stade. Et qu'au stade là-bas, que j'ai oublié son nom qui est tout pourri, Montpied, je crois, Gabriel ou Gaël, je sais plus. Enfin, Montpied, ils étaient pas terribles non plus.
C'est l'équipe qui a le moins de talent, je pense, de Ligue 1.
Ouais, mais ils compensent par.
C'est une bonne équipe de Ligue 2, quoi.
Ouais, mais c'est une rigueur
sans talent. En fait,
c'est une rigueur tactique et engagement des joueurs. Ouais. Le mec, il a pris que des
coups de coude, hein, ouais.
Bah
ouais.
Parce que, non, la Méno, c'était hallucinant. Il devait perdre 3-0. Enfin, je reviens là-dessus encore, je m'en remets pas. Hein. C'est aussi un peu un tournant de la saison parce qu'on perd à Jor, définitivement.
Ouais.
Et puis, on a l'assentiment de se faire voler. Mais enfin, tout va bien. Et donc, on a déjà. C'est vrai qu'il n'y a rien à dire. Hein. Antonetti fait le taf. Les joueurs font le taf.
Ouais, mais là, avec Nice, ça fait la troisième victoire en quatre matchs. Putain, ça commence à causer quand même.
Et même la quatrième victoire en cinq matchs.
Ouais. Et là, tu dis, Mais
là, c'est une vraie dynamique.
Et avec les résultats sur les autres terrains, ça nous offre la possibilité d'avoir une balle de match.
Et alors, en plus, on se dit, heureusement. Qu'on bannisse parce que finalement derrière, Bah si, non, mais il y a 3 encore. Je sais pas pourquoi j'ai pas noté 3.
Ouais, ouais.
Ça, on a joué à 3.
Je te dis, la fameuse balle de match, c'est le déplacement à 3. Où tu sais que, bon, la veille du déplacement à 3, tu vois que Nantes brillamment réussit à se prendre les pieds dans le tapis contre Montpellier 3-0. Donc tu le sais déjà. Et tu sais qu'Auxerre, le soir, va perdre contre le PSG. Et tu sais qu'une simple victoire.
Et que 3 est relégué, en plus.
Et il lui manque 3. Les 3 meilleurs buteurs du club ne sont pas là pour ce match-là. Donc là, putain, il y a tout qui est ouvert.
Et puis il y a aussi
l'invasion
qui s'organise.
Ah, moi au début j'y croyais pas. Les trucs Twitter, Shtoub, les gens qui disent ah la tribune saine, ça fait un peu le truc. Enfin on en fait tout un pataquès et au final il y a 100 mecs qui sont dans la tribune et pas du tout. C'était une vraie invasion.
Et j'ai regardé les photos des Lensois il y a quelques années là. Et ben on était plus nombreux. En tout cas l'impression visuelle. Qu'on avait
eux, ils avaient réparti, je crois. Sur...
En tout cas, j'ai vu des photos de ne serait-ce qu'aujourd'hui et j'ai l'impression qu'on était plus. Quoi.
Donc, alors, on parle de 4000, ça vous semble possible?
Ouais.
3500, 4000, ouais. 3500, je pense, sans problème.
Bah, il disait 9000 spectateurs présents au stade, dont 4000 Strasbourg.
Du coup, ça, dans l'histoire des plus gros déplacements,
en championnat, je pense qu'il n'y a pas.
Il y a Lyon.
Mais Lyon, c'était 3000.
Lyon, c'était 3000 en parcage, mais il y avait aussi du monde.
Ah oui, parce que Lyon a un très grand parcage.
Sauf que les gens étaient plus discrets.
Ah oui.
Oui, à Lyon, bizarrement. Je ne sais pas pourquoi.
Mais on est supérieur à Lyon ou dans les mêmes eaux.
Ouais, je pense qu'on est au-dessus. Il y avait vraiment il y avait du Strasbourgeois, on veut-tu, on voit là, absolument partout.
Et même sur le but, dans la tribune. Dans toutes les tribunes, on a vu des gens se lever et tu sais que tu dis ah bah oui il a un maillot genre Adler avec la barre bleue.
Bah d'ailleurs le but on peut en parler hein. C'est le petit gamin qui dormait son troisième but encore en 5 matchs un truc comme ça ouais. Alors que le mec il est normalement au milieu de terrain défensif que maintenant on l'a replacé à moitié ailier droit, enfin on sait pas trop son poste là, limite en soutien de Diallo en attaque. Et le mec
ça c'est une belle inspiration d'Antonetti quand même parce que
alors, il avait quand même personne l'avait vu.
Il avait montré quelques promesses l'an dernier, mais c'était quand même un peu fragile.
Bah, on a l'impression que Stéphane avec protégé.
Il y avait des pertes de balles si dangereuses qui avaient coûté des. Je crois l'an dernier, je crois une perte de balles qui coûtait un but. Enfin, il y a. Mais parce qu'il jouait plus bas, il a un peu disparu des radars et là, il a fait vraiment un retour en force. Après, c'est pas cool parce qu'on disait on a pas de joueur, on n'a pas d'ailier dans cette équipe, dans cet effectif. Bon, bah en fait, il est rapide, il provoque plutôt pas. Pas trop mal balle au pied, bah, en fait il peut.
Est-ce qu'il est bien profil. Parce que sur son but, c'est vraiment un gros.
Bah, ça, il est troyen là, il a franchement.
Les troyens n'attaquent pas, il a une passe, il a un coéquipier démarqué, il prend sa chance, et ben, comme il a la confiance, ça passe quoi.
Mais ça, c'est un but qu'il aurait jamais marqué en début de saison quand les équipes.
Il aurait même pas osé, je pense.
Combien de touches de balle il fait sur cette action? Il part, il repart ouais. À gauche, il revient. Enfin, c'est un truc. Tu
il
fais
fait,
ça,
il fait demi-tour.
Quand tu joues au parc avec tes copains, quoi. C'est pas possible. De... Ouais. Bon, tant mieux pour nous.
Ouais, ouverture. Et après, bon, festival d'occasion, raté.
On peut le dire.
Et bah, ce coup franc.
Il y a la barre notamment, bah, justement de Diarra de nouveau. Il y a le centre mal ajusté. Il y a Diallo qui en a deux énormes où il se chie dessus pour une fois de nouveau face au gardien. Donc ça aide pas. Donc on aurait dû quand même sécuriser le match. Ce qu'on a fait à Nantes, ce qu'on a fait contre Nice et qu'on n'a pas su faire contre.
D'autant
Nantes.
Plus qu'il y a l'expulsion du gardien.
Ouais.
Et c'était avec son magnifique. J'ai pas touché Nantes. Bon bah si un peu quand même.
Bon après cette expulsion elle dure. Enfin on est en avantage numérique une petite dizaine de minutes quoi. C'est pas non plus. On n'a pas eu, puisque derrière il y a effectivement la faute de Diallo. Alors il y a de la faute de Djikou, mais il disait d'ailleurs que le marchand a une grosse obstruction une seconde avant et que du coup il ne peut pas intervenir sur l'attaquant troyen parce que lui-même subit une faute et que du coup Djikou vient compenser. Et il vient compenser, on va dire, d'une manière pas très subtile parce qu'effectivement c'est rouge direct, hein, il l'empêche clairement d'aller au but. Mais c'est vrai que l'arbitre, la VAR, aurait pu quand même regarder et dire « Ouais, ok, sur l'action, il y a effectivement faute du Strasbourgeois, mais le Strasbourgeois ne peut pas intervenir puisqu'il y a une grosse obstruction. »
Mais là, du coup, on s'est retrouvé à deux doigts d'être maintenu 3 matchs avant la fin.
Oui.
ce qui était absolument... Même, il y a des saisons beaucoup plus tranquilles qu'on a connues, où on se maintenait finalement au dernier match quand même, parce que mathématiquement...
Bah, il y a deux ans, on se maintient.
Et en fait, là, on fait
Lorient...
C'est une saison horrible. Alors, on les a maintenus, hein, on va quand même finir le match, donc après, finalement, on se prend un but. Hein,
un magnifique...
super coup franc de Lopez.
Le mec qui a rien fait de la saison.
C'est pas vrai, il en est à 6 buts
cette année. Non, j'exagère, non, mais c'est quand même c'est un nom assez clinquant cette année.
Bah oui,
c'est une patte gauche. Moi, je connais une patte gauche qui est dans l'effectif du Racing et qui a fait un petit peu moins cette année parce qu'il est un peu plus vieux. Ça, on pourrait le remplacer d'ailleurs. Mmh. Mais bon, on en discutera après.
Voilà. Il a failli en mettre un deuxième, hein, par contre, Ronny Lopez.
Non, mais il a toujours sa. C'est vrai qu'il avance un peu au ralenti, mais par contre, faut pas trop le laisser tranquille avec le ballon et sur son pied gauche parce que ça peut faire très mal très vite.
Est-ce que Cels a été très bien inspiré, il peut pas aller faire un peu mieux sur ce but?
C'est jamais évident parce que sur un coup franc, normalement, si le gardien il a bien placé son mieux, c'est bien placé, il devrait pas être surpris. Elle est bien placée.
Voilà.
Il est pas trop loin.
Elle contourne vraiment le mur dans la partie la plus haute. Elle est vraiment parfaite, quoi. Il se dit avec, c'est Sissoko qui est le pilier du mur. Et ça passe au-dessus de la tête de, enfin, ça contourne Sissoko, il s'attend pas du tout à l'avoir passé là, en fait, quoi. Il est vraiment côté ouvert, il est dit côté fermé, j'ai mon mur, j'ai Sissoko à 1m95, là,
195 kilos.
Ouais. C'est compliqué, et après, il plonge plus pour la photo, j'ai l'impression. Il y a aucune chance qu'il la touche, quoi.
C'est un peu dommage. Et bon, derrière, il y a encore quelques alertes, hein, parce qu'on aurait pu,
On aurait pu aussi emporter le match. Il y a quand même deux contres avec Diallo où ça chie un peu. Du coup, à partout, ouais, je pense que c'est à peu près.
Voilà, on aura pris un point contre trois cette saison. Ça, c'est quand même scandaleux.
Mmh. C'est mal aussi. L'année prochaine, on en prendra sûrement zéro. Enfin, on espère.
Du coup, on a raté l'occasion de se maintenir.
Voilà, on a raté l'occasion d'une. Enfin, c'est vrai que là, et Antonetti encore, en bon chroniqueur de Radio Chou, a dit on a gâché la fête.
Mais c'est carrément ça.
Parce que je pense que les joueurs, c'est pas le gros truc qu'ils pensent, mais je pense qu'ils auraient été contents d'aller fêter ça à l'extérieur devant 4000 personnes. C'est pas un truc que tu fais tous les jours dans ta carrière.
Ah mais là, en fait, tout était magnifiquement prévu, ça tombait hyper bien.
Ouais.
Une putain de fête avec les 4000 Strasbourgeois.
Jouer le PSG.
En claquette, où tu peux éventuellement offrir un. On en reparlera plus tard si. Des adieux à éventuellement ceux qui resteraient pas. Et puis bah là, non, c'est pas. On y est presque pas.
Enfin, pour moi, techniquement, on y est.
Oui,
mais
on y est, oui.
Mais. On y est pas. Il vaut mieux se dire, j'espère que les joueurs se disent qu'on y est, parce que sinon.
En fait, ça serait un peu crade de finir sur 3 défaites.
Si tu regardes les interviews d'après-match, il n'y a qu'un seul joueur qui a laissé entendre que pour lui c'était fini, c'était Sanson. Tous les autres joueurs avaient l'air concernés, Sanson a dit, bon, là c'est terminé, on sait qu'on avance, une grosse différence de but. Pour lui, c'est terminé.
Mais c'est le match face au PSG, donc il a dit, c'est lui qui a fait la conférence de presse, c'est un match spécial.
Le PSG.
Du coup, le PSG. Sinon, c'est sympa ce déplacement à 3, hein, on peut dire.
Oui, je pense que les gens étaient contents, mais les gens, en fait, match nul, c'est sécurise le point qui te fait 6 points d'avance, tu reprends un point sur les équipes qui ont toutes perdu derrière toi, quelque part, mathématiquement. Mais c'est sûr que tu l'as pas. Après, tout le monde se disait, oui, mais bon, ça va le faire quand même. Les gens sont partis un petit peu déçus, presque tristes, alors qu'en fait, ça devait pas l'être. Mais, ouais, 3, c'est toujours sympa quand t'arrives dans une ville comme ça, que t'es hyper plus nombreux, qu'il n'y avait pas de supporters adverses, hein, leur tribune était condamnée pour des comportements contre. Contre le PSG.
Et du coup, c'était un peu comme l'ambiance, un peu comme à Lille, où tu vois des plaques 67 partout, des aires d'autoroute qui sont blindées.
Exactement, donc c'est effectivement la même ambiance. Beaucoup de gens étaient venus quand même en voiture personnelle, il y avait que, je sais pas, 5 ou 6 bus, quelque chose comme ça. Donc pour 4000 personnes, tu vois, ça fait pas lourd. Donc il y avait peut-être 500-600 personnes venues en bus et le reste était venu en voiture personnelle. Donc c'était ambiance très sympa.
Quand les bus sont arrivés, t'entends déjà les mecs qui lançaient des chants genre les Racing, Cabli Cessel, sur t'avais vraiment l'impression d'arriver à la méno en fait, et un peu à la bourre et d'entendre déjà le cop qui s'échauffe. Donc c'était assez sympa. Bon, 3 apparemment ils ont l'habitude.
Ils se font tout envahir, en fait.
Ouais, voilà.
Bah, par les clubs qui déplacent beaucoup de monde, genre puis, Paris, Lens, Marseille.
Et là, c'est exacerbé par le fait qu'ils sont relayés, donc il y a encore moins d'engouement que d'habitude.
Bah, déjà, ouais, c'est pas un club qui déchaîne les passions.
Les gens vont pas aller acheter un billet d'unité.
Même quand ils sont premiers en Ligue 2, ce qui leur arrive quand même relativement souvent, le stade est pas plein. Ouais.
Rappelez-vous, ils ont quand même battu Leeds à l'époque.
Ils ont gagné la Coupe Butter Toto en battant Leeds, ouais.
Avec Perrin, comment il s'appelait ? Je sais plus son prénom.
Alain
Perrin. Ouais.
Celui qui avait des petits problèmes de comportement avec les secrétaires ?
Avec les femmes de ménage.
Les femmes de ménage, pardon.
Et voilà, bah, donc du coup, le Racing, on peut poser la situation avant d'affronter le peut-être futur champion de France, on ne sait pas.
Qui est dans la même situation
que ça. Ouais, en fait, c'est un peu la même chose, sauf que je pense qu'eux se disent qu'ils sont champions.
Oui, puisqu'ils ont encore une plus grosse différence de but par rapport à Lens. Donc,
Donc le Racing a 6 points d'avance sur le premier relégable, qui est le FC Nantes, avec une
différence. Oui,
hein, sachant qu'on a plus 11 de différence de but.
Et sachant qu'il y a encore Auxerre qui est intercalé entre les deux. Si Nantes nous rattrapait, ça suffirait pas encore, parce qu'il faudrait aussi que Nantes nous. Enfin, si Nantes nous dépassait, il faudrait aussi que Nantes nous dépasse. Donc ça fait quand même beaucoup de. Ça fait beaucoup de si.
Sachant qu'on a 5 points d'avance sur Auxerre.
On a aussi, pour le coup, une bien meilleure différence de but qu'eux.
Ah oui.
Là, ils vont jamais la remonter. Et les moins 11 sur Nantes, il faudrait. Alors, c'est pas impossible sur deux matchs de te faire remonter moins 11. Mais par ce FC Nantes-là,
qui a mis 0 but en 3 matchs, ça c'est vraiment
probable.
Et qui joue à Lille ce week-end.
Lille qui s'est replacé dans la course à l'Europe.
Voilà.
Donc il faudrait pour.
Qui a battu Marseille.
Donc le scénario pour qu'on descende, ça serait se prendre une grosse branlée contre Paris.
Jouable.
C'est pas impossible. Hein.
Ça, on peut y croire.
Bon, pourquoi pas. Mais il faudrait en plus perdre à Lorient, bon, dans un match pour du.
Pour du beurre.
Bah non, qui du coup ne serait pas pour du beurre pour nous. Mais pour eux, c'est
vrai que la saison
possible.
De Lorient.
Après, c'est possible de perdre un 0 à Lorient. Mais par contre, ce qui semble le plus improbable.
C'est de prendre une tôle à Lorient. C'est.
Non mais alors non mais si on a pris une grosse tôle contre Paris, genre on en a pris 5. Qu'on perd 2-0 à Lorient, ça fait que
moins 7.
Ça fait 7. Et que pendant ce temps-là, Nantes a gagné genre 2-0 et 3-0. Enfin c'est quand même voilà.
Et que Auxerre entre temps qui a joué.
Ils ont gagné leurs deux matchs aussi.
Ils étaient à Toulouse et ils recevront Lens.
Ouais, non franchement ça fait quand même.
Lens qui n'a rien joué.
Bah c'était la deuxième. La Ligue des Champions direct, quoi.
Accessoirement. Non, mais ça serait vraiment. Ça paraît quand même.
Ça paraît assez improbable, mais improbable n'est pas Racing.
Chacune de ces conditions, à la limite, ça peut arriver, mais
tout serait. La combinatoire de tout ça,
ça fait beaucoup.
Ça fait beaucoup.
Alors, ce match, c'est pas vraiment sur le terrain que ça va jouer, hein. Quoique, peut-être, on ne sait pas. Mais il y a des choses de prévues. Alors, qu'est-ce qu'il y a de prévu ? Il y a un gros programme. Déjà, il y a la marche des supporters. Comment on appelle ça maintenant ? La marche des supporters, le cortège, la fanwalk. Non, je sais pas, c'est quoi le vrai nom qu'ils ont donné ?
Je ne sais pas.
Donc rendez-vous à 14h, place d'Austerlitz.
14h, place d'Austerlitz. Il y aura des bières.
Bah, place d'Austerlitz, c'est des bières, mais tu peux boire un thé à la menthe aussi, je pense, si tu veux. Tu n'es pas obligé de boire des bières.
Et départ prévu à 17h.
Pour départ à 17h. Donc 3h de
déambulation.
Ah, voilà, genre place d'Austerlitz, une manie. Voilà, ensuite, on espère que ça sera aussi bien que l'année dernière, où c'était vraiment super.
Oui, le même parcours. Même parcours que l'année dernière. Donc, les habitants du Neudorf, si vous nous écoutez,
allez sur vos balcons,
parce que le quartier, sinon, sera pas trop accessible en voiture. Non.
Ensuite, donc il y a un énorme tifo prévu. Les associations de supporters nous ont prévenu que tous les gobelets que vous buvez et que vous donnez dans la poubelle qui est faite à cet effet ont servi à financer, entre autres, un énorme tifo en hommage au stade de la Méno. Qui va entamer sa phase de rénovation.
Tout à fait.
Donc c'est officiel, la phase de rénovation commence.
Mais ça va commencer comment ? Qu'est-ce qui se passe ?
Alors, moi j'ai rien compris, personnellement.
C'est dommage qu'Hathor soit
là. Voilà. C'est dommage qu'Hathor ait été empêché de venir, peut-être par une municipalité, avec une zone ZFE. C'est arrêté parce qu'il a un critère 5. Menotté, emmené certainement en camp de rééducation dans le Larzac. Non, alors on va commencer l'année prochaine. Moi, si j'ai bien suivi, l'année prochaine, on ne touche pas aux tribunes de la Méno. Tous les travaux seront faits en extérieur ou sur des travaux préparatoires, et du coup, la jauge reste à 25 000 personnes. Pas de changement pour les habitués de la méno. Mais par contre, pour la saison du coup 2024-2025, la jauge descendrait à 20 000, ce qui aurait des travaux sur je ne sais plus quelle tribune.
Ouais, c'est ça.
Mais la bonne nouvelle, c'est que les travaux, malgré la guerre en Ukraine, malgré la transition énergétique, malgré la mort de Tina Turner, les travaux continuent.
C'est ça, parce qu'il y a eu des craintes un peu chez certains jusqu'au bout. Et donc, voilà, le top départ a bien été donné. Donc le budget, évidemment, il est à la hausse par rapport aux prévisions d'il y a quelques années.
Un budget à la hausse, ambition à la baisse.
C'est ça.
Plus 60%.
On a 160 millions, je crois.
Ouais, plus 60%. C'est pas rien.
Ouais. Le club doit financer plus, je crois. Non, je sais pas, ça. On n'en a pas trop parlé. Alors, on a beaucoup parlé du stade, la première pierre, mais au niveau du pognon, on n'a pas.
Il y avait un super schéma qui montrait combien le club devait mettre d'euros dans cette affaire. Il y a eu ça. Et il devait financer, bien sûr, la partie plutôt pour les pros, mais il y a une partie même dans le stade qui allait être financée. Faut que je vous retrouve ça.
Donc voilà, ça va commencer.
C'est une bonne nouvelle. Le stade de demain, avec l'ambiance d'aujourd'hui.
On va la voir,
on verra. Hein.
On n'a pas été déçus, il l'a quand même dit en conférence de presse.
Ah oui.
Sinon, j'aurais été quand même.
Attendez ça.
J'aurais quand même été déçu, quoi.
Quand t'as une punchline, il faut absolument l'utiliser un maximum. C'est dans son ADN. Et.
Un petit peu, effectivement.
Le nouveau maillot. Voilà, j'ai oublié. Merci Rachma.
Le nouveau maillot domicile sera dévoilé ce samedi. On ne sait pas quand vous écouterez cette émission. Peut-être que le match sera déjà passé, mais voilà.
On ne sait pas.
Du coup, ils vont jouer. Le Racing va jouer avec ce nouveau maillot.
Ce qui est une pratique marketing qui devient de plus en plus courante. Ah, je crois que Nantes le fait déjà depuis plusieurs saisons pour parler. Je pense que Paris le fait aussi. Et il vaut 10 balles plus cher, mais tu as 10 euros de réduction si tu cours à la boutique l'acheter tout de suite.
Cool.
Oui, Non, il te donne un avoir.
C'est même pas 10 balles de réduction,
non, il te donne un avoir pour tes prochains achats.
Ah, j'ai retrouvé.
Le camembert.
Le camembert des coûts. 160 millions d'euros. Donc le plus gros contributeur, l'Eurométropole de Strasbourg, pour 75,8 millions. Puis la région, 37,5. La ville de Strasbourg, 18,8. Le conseil d'Alsace, le CEA, à 18,8. Et le Racing Club de Strasbourg, à 9 millions d'euros.
Ce qui est rien, ouais.
Pour le stade. Et après, il y a le financement de la partie... Il y a un bâtiment pour les pros qui va être fait avec une tribune pour le terrain du centre de formation.
Ah oui.
Il y a un deuxième stade avec une vraie tribune pour que l'équipe 2 soit relocalisée.
Et les filles,
Et ouais, sur le terrain rue des Vanneaux derrière. Donc ça, et ça, ils ont dit, ouais, au début c'était prévu, ouais, on verra ça plus tard. Voilà. Donc, le vrai bâtiment pour les pros. Je pense que les pros vont continuer à avoir le vestiaire dans le stade, à avoir les Algeco pour faire la salle de muscu et tout ça pendant quelques temps. Puisque le club met 9 millions dans le stade. Je ne sais pas ce qu'ils financent exactement dans les 9 millions sur les 160, mais voilà.
Sachant que le Racing financera une partie du stade par la hausse du loyer de la méno, même si, bon, c'est une contribution plus ou moins symbolique. Bon, le stade, on en a beaucoup parlé, je ne suis pas sûr qu'on va vraiment qu'on ait des choses encore à dire de spécial.
Non,
parfait. J'aime bien quand l'équipe est raccord. Alors, avant de parler de Lorient, qui sera le dernier match qu'on a déjà un petit peu évoqué, ce stade... Alors, il y a plein de questions Minitel aussi, hein, avec moi, je pense.
Oui, alors.
Si t'en as, non, je ne sais pas, mais...
Moi, j'en ai sur les transferts, mais pas sur le stade.
Alors, les transferts, à tort, se fera une joie de répondre dès qu'il aura été libéré.
Libéré au challenge.
Alors, c'est quand... Oui. Alors, les questions... Quelle est la probabilité mathématique que le Racing ne se maintienne pas ? Question de Rao Coras.
Mais va à l'école.
0,2%, hein, 0,1. On en a parlé avant, hein, c'est extrêmement faible. Quels jeunes sont prêts pour jouer en équipe 1 ? Alors ça, c'est dommage que notre consultant
que ce soit l'équipe de jeunes ne soit pas là. Je dirais Diarra et Dubourg.
Voilà.
Peut-être Romain Risser.
Ah oui, question d'El Passard, du stade. Ah. Faut-il inaugurer la future fan zone de la Méno en y pendant ceux qui n'ont pas cru au maintien?
Ça me paraît évident.
Ah, c'est sympa, ça. C'est pour de la déco, c'est ça?
C'est ça.
Mais je pense que c'est une bonne solution. Tous les gens qui auraient critiqué Markel aussi, peut-être.
Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, des questions sur l'équipe de l'an prochain.
Un peu trop tôt, comme dirait Marc Keller, assurons d'abord le maintien avant de parler de la saison prochaine.
Est-ce que, notamment de Rika Lewis 67 autour des jeunes, est-ce qu'il faut bâtir une équipe autour de cette ossature? Et il cite Saïd, Diarra, Doucouré, Risser en cas de départ de Sels.
Est-ce que Matt Sels peut partir, vous pensez?
Moi, cet été, j'y crois pas trop.
Moi non plus.
J'ai l'impression qu'il y a eu quelques étés où il y a eu des rumeurs. Cette saison, il fait une bonne saison, mais qui est peut-être un peu moins étincelante que les autres.
Bah oui, pas aidé par...
Il est dans un club qui a joué le maintien, donc mécaniquement, ses performances n'étant pas... elles sont bonnes, mais elles sont pas phénoménales. Je pense que sa cote a un peu baissé. Il a pris un an aussi...
Même si ça reste un gardien, c'est moins important, mais quand même.
Son contrat a un an de moins, donc.
Disons. À part peut-être d'un espèce de chamboule tout, c'est-à-dire un top gardien qui partirait en France et qui libérerait des places un peu comme ça se passe souvent avec les gardiens. Je ne sais pas maintenant qui est top gardien en France à part Metzels, mais. Qui est-ce qui est bon comme gardien?
Quel type de club pourrait le vouloir?
Il y avait Lille, qui était Lille. Lens, ils ont un bon gardien.
Oui, mais Lille, ils ont ce qu'il faut maintenant.
Ouais, c'est vrai, ils avaient pris le mec là.
Ouais, ça me paraît compliqué de marcher.
Les clubs plus gros, ils iront pas le chercher. Ou alors peut-être faudrait voir à l'étranger, ça, je sais pas.
Ouais, mais moi, je pense qu'il a été un petit peu.
Mais tu vois, dans la liste des noms que t'as donné, Saï, tu le vois revenir, ça?
Bah, Saï, on sait.
C'est un bon joueur. Il a performé en Ligue 2, pas de problème. Mais est-ce que. Je sais pas.
Est-ce qu'il y a des clubs qui vraiment veulent recruter Moïse Saï? Genre, on dit oui, l'OM s'est renseigné. L'OM se renseigne, à mon avis, sur la moitié du championnat de France professionnel.
Et s'il ne le faisait pas, ça serait une erreur.
Voilà. Parce qu'en plus, il avait marqué, il a joué face à Marseille en coup, donc hop. Voilà. Mais est-ce que maintenant, l'OM va prendre un mec qui vient de D2? Enfin, genre, moi, j'ai vu que le topic Jérémy Perbet est remonté sur le Stub, puisqu'il va quitter son club, je crois. Il joue encore à 38 ans, il a fini avec des stats encore exceptionnelles. Mais qui prend à l'époque le meilleur joueur de national pour jouer en Ligue 2, à part le Racing, qui l'a fait 2-3 fois et ça n'a jamais marché? Jacques Rémy, Jérémy Perbet et vous autres, je ne sais plus qui encore.
Bon, après Saï, je dois avouer que moi je ne l'ai pas beaucoup vu jouer cette année, mais je doute quand même qu'il puisse devenir un gros attaquant de Ligue 1 l'an prochain. Quand je dis gros, pas forcément un titulaire, mais qui aurait une trentaine de minutes par match, quoi. Je sais pas s'il y a...
La marche est peut-être
bien, hein, mais je suis un peu sceptique quand même.
C'est vrai que peut-être pour lui, le meilleur plan, c'est de rentrer dans la rotation à Strasbourg, et à l'image peut-être d'un Diarra, sur un autre poste, hein, mais de saisir sa chance en essayant de performer, maintenant qu'il a pris de la bouteille en Ligue 2.
Mais on va pas bâtir autour de lui
le
cadre de l'équipe, ça. Je pense pas non plus.
Ouais.
Oui, par contre, Diarra, Doucouré, oui, là, clairement, on peut construire.
Est-ce qu'on va réussir à les garder?
Alors, par contre, voilà, s'il y a des mecs dont on peut retirer un peu d'argent, voire beaucoup, c'est peut-être eux et c'est peut-être dès cet été. On a déjà vu par le passé que parfois, le moment où on veut vendre, ben, en fait, c'est plus forcément le moment où ça intéresse les acheteurs. Et voilà.
Et ben voilà, je pense forcément, l'équipe, on parle sans à tort, hein, on ne devrait pas. Mais l'équipe est forcément à rebâtir. Il y a des joueurs qui vont partir, qui sont en fin de contrat, des joueurs qui sont déjà partis. Il y a des joueurs... Voilà. Il y a pas mal de... Enfin, il y a du recrutement à faire, il va donc falloir des pépettes, comme dirait Marc Keller. Donc il y a forcément des joueurs qui vont être sacrifiés, des joueurs bankable. Et des joueurs bankable, moi j'en vois trois. Doucouré et Diarra, en tant que jeunes prometteurs où les gens se renseignent, ils ont totalement l'âge où on peut mettre une quinzaine de millions en espérant faire une énorme plus-value, un peu comme Monaco aime bien faire. Et Habib Diallo, qui sort d'une saison, 20 buts. Il est dans les top buteurs du championnat de France, alors qu'il joue dans un club qui...
Quand tu joues le maintien, ça c'est quand même incroyable.
Et en ratant plein de trucs. Et donc, du coup, c'est, y a, les trois joueurs sont bankable, comme on dit. Il y en a, à mon avis, deux qui vont être vendus pour financer.
Sur ces trois-là, tu penses?
Ah, je pense. Je pense qu'il y en a deux.
Ou est-ce qu'un Bellegarde.
Mais on vend comment? Parce qu'il y a notre meilleur auditeur.
Ah, Rose 3.
Nico XX, @ Nico Lacac sur Twitter, qui nous pose une question. Quel air vend-il mal?
Excellente question.
Est-ce qu'on vend mal nos joueurs, nos pépites, par rapport aux autres clubs? Moi, j'ai envie de répondre oui. Mais est-ce qu'on est à chaque fois dans le même environnement, dans la même situation? Là, je te prends un exemple. Les mecs de Reims qui vendent leur attaquant étiqueté au PSG, ils ont un attaquant super jeune qui est prometteur à ce poste-là et tout ça, et ils le vendent, je sais pas, des blindes au PSG, genre 30 millions ou un truc.
C'est ça.
Dans ces eaux-là. Nous, à chaque fois qu'on avait des joueurs, on avait, tu vois, un genre qu'à vendre, qui était un attaquant certes de pointe, mais plus pareil, pas le même style, beaucoup moins jeune. Ouais. Pas, voilà. Mais avec, on va dire, moins de potentiel, mais qui sur la saison dernière avait des meilleurs stats. Où on avait Jean-Aljikou qui était un défenseur central, donc ça part pas au même tarif. Tu vois, on n'était jamais dans les mêmes situations. Donc, généralement, les clubs de merde qui vendent bien, je trouve qu'ils vendent des attaquants jeunes. Donc, des attaquants à fort potentiel. Donc, plus c'est vers l'attaque, plus ça coûte cher. Plus c'est jeune, plus ça coûte cher. Et nous, on n'a jamais eu un attaquant vraiment, un truc qui peut vraiment, un jeune attaquant. Le seul qui pourrait se rapprocher de ça, ça serait Diarra, depuis qu'il a été repositionné ailier droit, qui pourrait exciter des mecs vraiment. Alors qu'en fait, il a très peu de matchs hein, en Ligue 1 au compteur. C'est le seul qui pourrait vraiment, où il y aurait, qui pourrait provoquer un achat déraisonnable d'un club.
Parce que Doucouré est un poste trop, pas assez glamour.
C'est ça.
Pour entre.
Mais du coup, moi, je pense pas qu'on vende si mal que, enfin, que Keller vende si mal que ça, même si on était frustré un peu. Notamment l'été dernier, mais souvent pour les raisons que tu évoques, les quelques mecs très jeunes avec un très gros potentiel qu'on a eu, on les a vendus finalement. C'était Simakan.
Fofana.
Simakan, c'était quoi, 15 millions?
Oh oui, c'est à peu près 15.
Fofana, c'était 15. Et puis il y a eu Jean-Eude.
Qui était moins jeune voilà. Déjà, et qui était là pour le coup, qui a été une escroquerie sans
voilà.
Là pour le coup, il a très bien vendu.
Mais sinon, après, Ajorque, c'était plus vieux. Jiku, ça a failli se faire. Hein. C'est passé pas loin. Mais c'était
Thomasson, c'est autre chose.
Finalement, Thomasson, est-ce que c'était plutôt bien joué de le vendre cet hiver? Moi, je pense que oui. Même si derrière, il est super bon avec Lens. Mais à Strasbourg, c'était fini en fait. J'ai l'impression qu'il n'y avait plus trop de jus.
Effectivement.
Donc c'est bien d'en avoir tiré parce que 4 millions. Et puis finalement, derrière, on a pu faire des choses avec.
Bah alors on a surtout pu enfin, prendre un peu des gens.
Sobol, tu me diras.
Ouais, mon Sobol.
Suzuki. Oui, c'est pas eux qui nous ont ce qu'ils ont.
Mais on a pris Sanson en prêt.
Mais ça sera juste un prêt.
Voilà. Et ça, il y a une question de Captain Flirt. Voilà, est-ce que on peut vraiment espérer conserver Sanson? Alors ça, bon.
Alors, il y a aussi un jeu de mots, est-ce que c'est sur Twitter ou sur Shtub? Est-ce qu'après la minute de silence, on peut faire une minute sans son
à la gloire de
Parce qu'on a.
Fin jeu de mots.
On a aussi.
C'est Captain Flirt?
Oui, c'est ça.
Qu'on salue toujours très
je
fort.
Je sais pas si c'est. Mais on a aussi ST Sébastien, qui est @stseb67, qui nous pose une question. Ami fidèle de l'Alsacien Matt Pokora, Morgan Sanson peut-il rester au Racing en cas de maintien en Ligue 1?
Non, ça roule. Alors en fait, ça semble absolument impossible. Hein. Ça a été expliqué.
On dit 300 000 euros mensuels, hein, c'est ça.
Donc il est encore sous contrat.
Aston Villa.
Les Villans. Donc il faudrait racheter son contrat et après il faudrait lui proposer un salaire quasiment équivalent, ce qui semble absolument impossible.
Et son point a reflambé en plus.
Voilà. Même il y a très peu de joueurs en fait en Ligue 1. Il y a très peu de joueurs qui sont payés autant en fait. Même dans les. Enfin si t'as le PSG. Là on parle de salaire de bons joueurs d'équipes comme Marseille, Lyon,
sachant que quand il était à Marseille il devait tourner aux alentours de 150-200 déjà, qui était déjà parce qu'il était déjà un bon joueur à Marseille, c'était quand même un des top 5 top 6 de l'effectif, et quand il est parti évidemment à Aston Villa il s'est fait revaloriser, c'est tout à fait normal. Après, moi, j'ai bien aimé son état d'esprit, qui était de dire, je ne sais pas si vous avez vu l'interview, il a dit, moi, je cherchais absolument un club quitte, je voulais pas un club du ventre mou. Vous avez lu cette interview? Je sais plus où je l'ai lu.
Non.
Il a dit, ça ne m'intéressait pas. Je crois que c'est sur SoFoot. Il a dit, moi, ça m'intéressait pas de trouver une équipe. Je voulais une équipe qui se batte, une équipe qui était dans la merde, entre guillemets, parce que je savais que j'allais être avec mon niveau titulaire. Et moi, ce que je voulais, c'était aller dans un club et jouer 90 minutes tous les matchs. Et aller dans un club un peu plus huppé, j'aurais de nouveau été empilé, j'aurais peut-être pu jouer des matchs, mais pas tout. Et non, en fait, moi, à Aston Villa, je joue jamais. Donc là, ce que je voulais, c'était un prêt, quitte à ce que ce soit difficile, quitte à ce que ce soit pas un super, quitte à ce que, mais ils s'arrangent entre eux mais que je puisse jouer un maximum de matchs. Et donc, dans son état d'esprit, quelque part, le prêt, il est réussi parce qu'il est venu à Strasbourg. Il a démontré qu'effectivement, c'était un joueur qui était quand même une classe supérieure, on va dire, aux autres joueurs du club. Et
clairement.
Au début, les premiers matchs, il arrivait 60-70 minutes et il était cramos. Là, maintenant, il fait des matchs en entier. C'est pas toujours flamboyant, mais tu sens quand même qu'il en a sous la pédale et que le mec.
Et puis il va au charbon. Alors, à Nantes, voilà, avec ce bol, ils finissent tous les deux à l'infirmerie. Ouais.
Un peu à la Jonas Martin, dans l'esprit.
Oui.
L'esprit comme ça.
Charbon. Bah oui, ce qui manquait aussi à cette équipe.
Non, il n'y a aucune chance, à mon sens. Là, il a refait jouer du temps de jeu. Il a quelque part donné des billes à son agent pour essayer de débloquer la situation, soit avec Villa, soit ailleurs, pour qu'il puisse être transféré. Mais je pense pas, à son âge, qu'il va renoncer à ses plus de 300 000 balles par mois pour redescendre à 150 000 pour jouer dans un club qui joue...
Il ne fera pas une Gilbert, lui.
Voilà. Gilbert, lui, ça faisait 2 années de suite qu'il était paumé au Villan, c'est qu'il n'arrivait pas à se faire transférer. Et là, bah, il s'est assis sur le salaire pour retourner dans le club avec lequel ça se passait bien, parce qu'il disait aussi, Sanson dans son interview, que le fait de jouer devant un stade plein, donc là, évidemment, contre Paris, on va faire le grand chelem de la saison à guichet fermé. Donc ça, c'est important.
C'est jamais arrivé, 20.
Ouais, si, bah, on est à 23 ou 24 matchs de suite, je crois, à guichet.
C'est un truc exceptionnel au Racing.
Voilà, et donc il dit, bah, ça compte aussi, quoi. Une bonne ambiance, un club où je vais jouer titulaire, bah, le mec, il en demandait pas beaucoup plus pour se donner sur le terrain.
Mais c'est déjà bien qu'il ait réussi à contribuer pendant ces 6 mois, parce que c'était pas gagné. Quand vu l'état physique dans lequel il est arrivé, je me suis dit, mince, ça se trouve, il va retrouver la forme fin mai, et puis ça sera déjà fini.
Alors il disait que justement, quand il savait que c'était foutu avec Aston Villa, il a fait volontairement du rab à l'entraînement à Aston Villa.
Oui, mais ça, c'est... En fait, j'ai l'impression que quand tu joues pas les matchs, c'est très dur de rester au niveau physique, même si en fait t'as ton préparateur physique perso, tu fais des trucs, tu soulèves de la fonte, ça rien remplace la compétition. Bon voilà, apparemment il a quand même réussi à retrouver la caisse, mais ouais, les premiers matchs.
Pour répondre à la question de nos auditeurs, a priori on peut faire une croix dessus. Mais on pourra dire qu'il aura fait un passage de 6 mois remarqué.
On va dire qu'il sera applaudi quand il viendra à la maison.
Tout à fait. Voilà.
Avec 3. Est-ce qu'un second prêt à la Gilbert, vous envisageable
dans 6 mois?
Une arnaque à la Marco, là, un truc comme ça?
Ah oui, un prêt.
Un second prêt de suite? Tout est possible avec Marco. Hein.
C'est vrai qu'on n'a pas envisagé le...
Est-ce que ce serait...
C'est toujours pareil, s'il n'arrive pas... Si Aston Villa...
Ils vont essayer de le vendre.
Voilà.
Ils vont essayer de le vendre. Mais ils vont peut-être pas réussir, parce que
maintenant, ça fait quelques fois qu'on négocie avec eux.
Ouais, je pense que, à mon avis, les mecs connaissent le Sofitel et le mec du Racing veut connaître le tel Ibis budget de Birmingham.
Il y a peut-être le problème un peu de Gilbert, c'est de quand tu signes un contrat un peu trop important, après t'es prisonnier de ce contrat. Alors oui, c'est bien pour ton banque, mais parfois...
Puis surtout, les clubs anglais, c'est vraiment n'importe quoi sportivement. Aston Villa, les mecs, ils prennent des gens, ils ne font jamais jouer. Enfin, je dis pas que les mecs méritent forcément de jouer, mais il y a tellement de joueurs, on signe à tour de bras, et avec... Bref, c'est vraiment...
Mais tu dis, ils sont si forts que ça, pour qu'un Sanson joue même pas 2-3 matchs.
Je ne pense pas.
Ils sont quand même pas si forts que ça, parce que...
Ils ont sur le papier quelques joueurs qui sont pas mal, mais après c'est une histoire de coach, tu vois. Par exemple, là on a un coach qui est arrivé qui s'appelle Antonetti et qui fait plus jouer le mec qui a le plus beau Persic, ouais. Et c'est aussi le mec qui a le plus beau pédigré de l'effectif actuel de Strasbourg et qui joue plus.
Là c'est assez fort.
Parce que
je parle de Gamero.
Alors exactement, magnifique transition, mais c'est quand même, faut signaler, j'avais complètement oublié que Persic jouait au Racing.
Hein, on l'a oublié, bien.
Ah bah il a compris Antonetti que Persic est un joueur élégant avec une super technique. C'est pas la question ne se pose pas là, mais c'est un mec qui ralentit le jeu et c'est un mec qui va pas au mastic. Et il a vu qu'il a un Sissoko qui est quand même une force de la nature, qui certes joue souvent avec les boîtes autour des chaussures et que c'est compliqué pour faire des passes, certes, mais que s'il s'agit de mettre un impact physique, même un Aoulou et un Sissoko, c'est pas les plus grands techniciens de l'effectif, mais par contre.
Le carton, ils y vont.
Et Antonetti, il a fait quoi? Il a mis un seul attaquant devant, il a musclé le milieu de terrain, et il a dit avec ça, on peut aller à la guerre.
Et puis, physiquement, le niveau, il y a un niveau retrouvé. D'ailleurs, c'était Tudor qui citait Strasbourg comme une équipe physiquement au top.
Ce qui nous a poûté.
Peut-être c'est parce qu'on a notre préparateur physique qui a été, comment dire, démarqué.
Tu parles de Julien Stéphane?
Non,
Bayeux, Bayeux,
Florent Bayeux, qui bizarrement
avait déjà disparu des radars depuis quelques temps.
Et donc c'était le match avant Reims. Il a été lourdé puisqu'à Reims il avait été remplacé par un genre de deuxième préparateur physique qui était plus ou moins son adjoint.
Le stagiaire, je crois.
Ouais, ouais, voilà. Et donc depuis Reims, donc sur la série de victoires, et avec un physique un peu retrouvé, effectivement, on a pu. Alors c'est peut-être une coïncidence. Hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais voilà, on constate ça.
Après, je pense que même le mec qui voit les matchs depuis la buvette de la Méno avait constaté qu'il y avait un problème physique sur cette équipe, sur cette saison, qui n'explique pas tout, mais qui a été handicapant dès le départ. Genre, dès le départ, on a senti que l'équipe n'était pas prête physiquement.
Mais moi, ce sentiment, je l'ai pas eu aussi longtemps que je l'ai lu. En août et jusqu'à mi-septembre, je vous ai trouvé vraiment pas bon physiquement. Et après, j'ai plus trouvé que c'était le cas.
Et c'était quand même.
Je te parle d'un aspect, un ressenti subjectif, un visuel.
Ouais.
Moi, j'ai pas les stats avancées des courses à haute intensité.
Il y a que JP Larky qui a les.
Moi, je me souviens de Thomasson, par exemple, qui a des crampes à Auxerre. Ça, c'est un truc qui m'a marqué. Thomasson, c'est un mec qui a la plus grosse caisse, qui finit avec des crampes à un quart de la fin. Voilà. Mais après, en octobre, novembre, j'ai l'impression que physiquement, on y était. C'est juste que, par contre, on était nuls. On était nuls ailleurs. Mais
en tout cas, voilà, Antonetti, il est revenu sur des fondamentaux basiques de dire je joue avec un seul attaquant, mais je muscle un peu mon milieu de terrain. Je mets des joueurs qui peuvent. Voilà, il a articulé l'équipe légèrement différemment. Et ça a marché. Effectivement, des mecs comme Persic sont des grands perdants, mais des mecs comme Gamero sont effectivement aussi les grands perdants. Et j'ai envie de dire, même il y a un troisième un peu grand perdant, c'est Liénard, qui malgré tout, hein, les deux papis rentrent plus trop avec la jeunesse un peu triomphante qui joue titulaire les matchs. Bah, les deux papis sur le banc de touche, il paraît que Liénard d'ailleurs était vénère à 3 là, suite à ce match-là. Il est rentré dans une colère noire comme un peu cette année. Il prend les choses très à cœur. Tu sens.
Moi, tu joues plus, tu t'énerves. Hein. C'est un peu comme. Et oui, alors c'est pour ça qu'on avait le titre Gamero, Liénard, la retraite à 35 ans.
C'est ça.
Est-ce que c'est fini pour nos deux héros, je veux dire, symboles du Racing à des époques différentes?
Fini à Strasbourg ou ailleurs?
Les deux. Ça a l'air, on peut commencer par Gamero et on finira par Dimitri. Je veux continuer le foot, mais est-ce que le foot veut continuer avec Kevin Gamero?
Moi, je pense que Gamero, il peut encore jouer dans une équipe de Ligue 1, et notamment à Strasbourg. Je pense que lui, il serait pas contre, je sais pas, à son âge, est-ce qu'il a encore envie de déménager, de partir, alors qu'il a une famille, qu'il a quand même maintenant un ancrage local?
Je pense qu'il déménagera tout seul.
Du business.
Voilà, il a du business.
Je pense qu'il déménagera tout seul s'il change de club.
Ouais. Après, Gamero, le problème, c'est son salaire.
À ce salaire-là, je ne pense pas qu'on va le prendre.
C'est encore le plus gros salaire de l'effectif cette année.
Combien, 150?
Ouais, c'est ça, c'est ce qui se dit, entre 140 et 150. Tu peux pas continuer l'année prochaine à lui filer ça pour le rendement qui est je joue quelques matchs et je mets bon an mal an 10 buts dans la saison, ce qui est bien,
ce qui est pas mal.
Ah non, mais sinon mais 10 c'est vachement bien.
Mais il est à 9 hein, donc pourquoi pas 10?
En fait voilà, à quel salaire on pourrait le garder? Ouais, qu'est-ce qui serait pas accepté à ce genre? À quoi est-ce que sans ça,
vu son statut, son pédigré, moins de 100 000 balles, j'imagine pas, quoi, tu vois. Mais je pense qu'il faudrait qu'il enlève un tiers encore. Il l'a beaucoup enlevé par rapport déjà précédemment. Il avait fait des efforts, mais je mettrais une petite pièce sur une petite prolongation, mais genre d'une année, tu vois. Encore. Parce que je pense qu'il a pas tant d'années à donner. Parce que parce que pour l'instant, à moins de changer l'attaque, parce que surtout si tu perds Diallo, il faut quand même généralement quand même un duo d'attaquants à peu près titulaire. Il pourrait faire le job. Sur Liénard, j'ai plus de doutes. J'ai vraiment l'impression.
Pour le football ou pour le Racing?
Bah, j'ai plus le doute que ça va être peut-être l'année prochaine, peut-être sa dernière ou son avant-dernière année, mais plutôt en Ligue 2, quoi. Je vois bien se trouver dans un club. Tout le monde le voit aller à Sochaux, bien sûr, et tout, proximité géographique oblige, et par rapport à son ancrage familial, mais ouais, je le vois bien aller dans un club de D2 pour se finir tranquillement, et ça, il perdra pas son statut de légende locale ici, quoi.
Mais après que moi, le Lillard, ça fait pas mal d'années où en début de saison, je me dis, ouais, bon, Stan, on comptera plus trop sur lui. Et puis en fait, à la fin, il a quand même fait 30 matchs.
Mais souvent,
là, cette année, il a quand même.
Mais là, la courbe est inverse.
Oui, alors là, c'est vrai qu'il finissait mieux qu'il commençait.
Ouais.
Tu as raison. Souvent, on le voyait pas trop pendant les 3 premiers mois. Et puis après, avec les blessures, avec les trucs, finalement, là, c'est vrai que c'est l'inverse. Oui, c'est vrai que cette fois, c'est peut-être la bonne.
Ouais, là, je trouve que, surtout avec l'arrivée effectivement d'Antonetti, la fois, il l'a fait contre Nice, il est quand même rentré une minute dans le match. Une minute. Et tu voyais qu'il avait les nerfs. Il avait les nerfs de rentrer juste pour une minute. Genre, tu me fais ça à moi, je suis le capitaine du club, je rentre une minute et il est coup de sifflet final. Il est à Auxerre, à 3, il est pas du tout rentré. Ouais, j'ai l'impression que c'est un petit peu compliqué, mais ça sera peut-être lié au fait de si notre ami Antonetti reste ou pas.
Ah, c'est une bonne question.
Parce
ça
que c'est une question Minitel.
Ah.
D'un certain Nicox.
Voilà. Notre auditeur numéro 1.
Ouais, il pose la question qui est, faut-il garder Fred Antonetti?
Alors, quel est le deal avec Marcel?
Déjà, faut savoir que ça dépend pas de nous. Parce qu'il a une prolongation automatique en cas de maintien.
Ah oui,
il a une clause où il peut demander.
Voilà, mais
il peut demander. Oui.
Mais donc, en gros, si lui il veut rester, on imagine qu'on se maintient. S'il veut rester, il reste. C'est ou ça. Alors, faut le virer.
Ouais.
Mais ça va coûter cher. Donc la question, en fait, c'est plutôt est-ce que Antonetti a envie de faire une saison de Ligue 1 avec le Racing l'an prochain? Moi, je pense que oui. Ça m'étonnerait qu'il soit juste venu jouer les pompiers de service et puis après qu'il dise, maintenant, je retourne. Je sais pas où est-ce qu'il habite par ailleurs en Corse.
Je filme la scène.
Voilà.
Je pense aussi.
Moi je pense qu'il sera sur le banc l'an prochain. Hein, je vois pas pourquoi.
Et en plus c'est pas un cadeau parce que l'année prochaine il y a quand même il y a du boulot.
Bah faudra reconstruire à peu près une équipe.
Donc Antonetti, sauf si lui il a pas envie pour des raisons personnelles.
Mais il a pas l'air d'être malheureux.
Est-ce qu'il aura une plus grosse proposition cet été? C'est pas sûr non plus.
Bon, c'est plus probable. Je dirais même que c'est peu probable.
C'est peu probable qu'il y ait un plus gros club de Ligue 1 qui veuille l'installer.
Bordeaux.
Bah, si Bordeaux monte, ils vont garder l'entraîneur qui a fait monter. Enfin, on fera encore toujours le cas. Mais...
Donc voilà, oui, il sera encore là.
Donc moi, je pense aussi que s'il y a monté.
Donc Antonetti là.
Il va utiliser sa clause pour prendre une. Je pense.
Antonetti là. Dimitri Liénard, dernier match à la Méno contre Paris.
Encore un événement à rajouter sur le match de Paris.
Mais du coup, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on ne sait pas si c'est son dernier match.
Tu peux le supposer. Mais c'est le problème avec les joueurs qui partent et qui ne l'annoncent pas clairement ou qui ne le sait
pas
clairement.
Mais parce qu'il ne le sait pas, je pense qu'il ne le sait pas encore. Je pense que c'est
pas qu'il ne le sait pas encore. Il y a des joueurs comme ça, par exemple, je sais pas, Busquets au Barça. Il a dit, voilà, moi, cette année, c'est terminé, c'est mon dernier match. Et tu le sais avant. Et là, du coup, c'est des joueurs emblématiques auxquels tu peux rendre un hommage, des choses comme ça. Avec Lénard, on va arriver là samedi, donc c'est dans quelques jours. On pourrait rien vous cacher, on enregistre le jeudi soir.
Avant-hier, c'est même avant-hier.
Voilà. On ne sait pas si ça serait la dernière de Dimitri Lénard au stade de la Méno. Et si c'est la dernière de Dimitri Lénard au stade de la Méno, je pense qu'il y a l'émotion sur plus d'une personne qui sera présente au stade, quoi. Parce que quoi qu'on en dise, quoi qu'il ait fait, qu'importe comme il finit, on va dire cette saison-là un peu plus difficilement, ça a quand même été un joueur. Immense et légendaire, même s'il n'a pas fait partie des plus belles saisons du Racing Club de Strasbourg, il a fait partie, il y a des gestes qui restent dans la légende, bien sûr le coup franc de Lyon, mais pas que.
L'étranglement à Lille, magnifique, rappelez-vous.
Mais c'est aussi un joueur qui a joué dans 3 divisions différentes avec le Racing, et ça je suis pas sûr que dans l'histoire il y en ait eu d'autres.
David l'a dit. Des deux nationales, c'est face à 2, c'est 4 même.
Et voilà. Mais on va dire en comptant la plus haute.
Non, il fait partie, je pense, à tout jamais de l'histoire du Racing. Il est encore ce dernier lien qu'on a avec cette espèce de temps mythique où on jouait en amateur.
On était tranquille à la Méno.
On avait sa place.
Voilà. Il n'y avait pas de guichet fermé.
Mais quoi qu'il arrive, que Dimitri reste ou qu'il aille voir ailleurs, ça sera, il bouclera sa 10e saison cette année avec le Racing Club de Strasbourg. Et ça, c'est déjà exceptionnel.
C'est bien que ça finisse sur un maintien aussi.
Bah c'est mieux. Bah c'est sûr, si on descend, ça serait
probable que samedi soir il y ait deux équipes qui fêtent quelque chose sur la pelouse de la nuit. D'ailleurs, en parlant de Niena, Gamero, qui est arrivé ce matin dans l'EDN, a demandé à Marc Keller de lui faire une statue dans le nouveau stade de la Méno. C'est ce que Gamero a demandé à Keller.
Une statue à Niena?
Ouais.
Ah,
oui. Non, c'est pas Thierry Henry. Hein. C'est...
Non, ça va. Il a le melon, mais quand même.
Ouais, je trouvais que c'était assez classe. Genre, bah, aussi une manière d'esquiver un peu les questions sur sa prolongation à lui. Enfin, il a été assez clair. Il a dit qu'il a envie de jouer et qu'on verra après le maintien. Bon, enfin,
et clair. Après le maintien, il veut une discussion avec Keller parce que visiblement, lui, il serait intéressé pour rester à Strasbourg. Il sait très bien qu'après deux saisons, on va dire, moyennes à Strasbourg, ça va pas se bousculer niveau propal.
Voilà. Mais tu disais un truc très intéressant. Il a demandé une discussion avec Marc Keller. Mais est-ce que Marc Keller sera la personne avec qui il faut discuter après le maintien?
Ouh,
jolie la transition, hein, pas mal. Alors il nous reste qui à peu près 3 heures pour parler du petit. Alors moi je trouve que c'est fou parce que autant dans les cercles privés, dans les dans les milieux autorisés, cette nouvelle du Guardians. Un tabloïd, selon BFM TV. Ouais, ouais,
c'est ce qu'il y a. C'est un peu dur, quand même, pour Guardians, mais...
Voilà, bah, si nos amis de BFM TV nous écoutent, okay, ouais. Que Ted Bully était revenu, enfin, les discussions avaient repris, c'était réchauffé, hein, avec les actionnaires du Racing. Ça fait vraiment hyper réagir, j'ai envie de dire, sur les discussions, les boucles, Telegram, Discord.
Surréagir, peut-être?
Ben, genre, des centaines de messages à rattraper pour les mecs qui faisaient autre chose.
C'est vrai.
Et autant, je trouve que sur le Shtoum, ou même sur les réseaux sociaux, ça a été plutôt modéré. Personne ne s'est dit.
Oui, c'est pas la révolution encore.
C'est pas la révolution. J'ai l'impression que ça, ouais. Donc, qu'est-ce qu'il en est? Alors, l'info, c'est quoi? C'est le Guardians qui dit, attention, ça se réchauffe. Ted Bully sera sur le point d'acquérir un club en France.
Pas tout à fait ça. Acquérir une part minoritaire dans un club.
Voilà. Soyons précis. Tout à fait. Et donc, des discussions qu'on croyait, qu'on espérait closes.
Avec Strasbourg et un club portugais de partenaire MCM, je sais plus comment.
Truc de notre gueule.
Ouais, donc commencer à monter une galaxie de clubs, donc une ferme.
Oui, c'est le phare.
C'est une ferme. Monter une ferme où Chelsea sera évidemment la tête de pont et après on sait pas trop entre le club obscur portugais et Strasbourg lequel serait le deuxième et quel serait le troisième, mais voilà, monter une ferme. Sachant qu'évidemment il se défend de vouloir faire ça.
Il fait ça par amour du foot.
Et évidemment l'amour du beau jeu et du football. Et donc effectivement, on va dire les supporters les plus impliqués et souvent les plus extrêmes, qui sont notamment les ultras, ont démarré au quart de tour sur ce genre d'annonce-là. J'ai l'impression que le fan de base, sans que ce soit péjoratif, du Racing. C'est assez marrant parce qu'il y a eu un petit reportage de BFM Alsace là-dessus. Ils ont fait un micro-trottoir à l'entraînement et ils ont interviewé des fans du Racing. Et j'ai trouvé les réactions des fans assez symptomatiques où les mecs disent globalement, effectivement, sur le papier ça nous plaît pas ça, mais on a confiance en Marc Keller, il peut pas nous faire un truc comme ça. C'est globalement ce qui sortait du fan moyen. Alors que chez les ultras, on a l'impression que la confiance en Marc Keller, elle est légèrement plus faible.
Mais en fait, moi, je pense que Marc Keller, il y a... Bon, ça, maintenant, c'est plus un secret pour personne. Il a envie de céder. Ça va avoir peut-être un petit bout de temps qu'il y pense. Je pense que dans son scénario idéal, il y a 2-3 ans, quand il y pensait, c'était pas un Bully qui imaginait... avec lui, il imaginait faire affaire.
Ça aurait été plus un Ansel.
Mais le truc, c'est peut-être qu'au bout d'un moment... Peut-être qu'il n'y a que ça, en fait, sur la table, comme offre sérieuse.
C'est la loi de l'offre et de la demande, et du coup...
Donc moi, en fait, à la base, moi, j'aurais plutôt tendance à faire confiance là-dessus à Keller, mais en fait, maintenant, je me dis, mais peut-être qu'il n'y a que ça, en fait, en face. Et du coup, j'ai moins confiance, maintenant. Parce que si vraiment il a envie de partir et qu'il n'y a que ça, bah, peut-être qu'il va le faire.
Mais pourquoi il veut partir, Marc Keller, aussi? Pour aller à la FFF, ça a l'air un peu...
Ouais, mais il y a Olas qui l'a doublé, déjà.
Bah, il a l'air doublé des deux côtés. Il y a Diallo, hein, pas Habib. Je sais plus comment il s'appelle.
Alpha.
Peut-être qu'il a envie de.
Et il y a Olas qui lui Alors, on voit aussi ce que donne un peu ce genre de deal avec des investisseurs américains où soi-disant...
Tu restes 3 ans, ça va bien se passer.
Voilà, et il est resté 3 mois et il est parti avec le chèque, la voiture de fonction, la loge à vie. Et merci, au revoir. Et je pense que l'année prochaine, la loge à vie, un jour, il va venir, les clés ont été changées.
Ouais. Puis la voiture était en leasing, il faut payer, le loyer.
Après, pour en venir au fan moyen, j'ai l'impression que de tout temps, le fan moyen, il sait... Voilà, là, ceux du micro-trottoir disent quand même qu'ils sont plutôt au compte, mais qu'ils font confiance à Keller.
C'est ça. Vraiment, ça ressortait.
Ils disent pas, ah ouais, cool, Chelsea, pourquoi pas, on va recevoir des bons jeunes, voilà.
Ouais, je m'attendais,
voilà, moi, j'avais peur que tu me racontes ça.
Et je m'attendais à ça. Et en fait, j'ai été agréablement surpris. Des gens disent, ouais, non, mais attendez, cette affaire, ça semble pas très bon, mais on va pas aller vers ça, c'est quasiment sûr, parce qu'on a Mark Keller. Et Mark Keller, il a pas construit un projet, parce que c'est notre projet, pendant 10 ans. Pour après le revendre au premier bougnafier venu, comme ça a pu être le cas avec Ginette qui a vendu ça à un homme d'affaires estonien avec des mecs à Londres, quoi. Après, je m'en fous du moment que je vends, que j'ai mes ronds et que je peux me casser.
Après, ce qui peut jouer aussi, c'est la perception qu'on a de... Alors, c'est vrai qu'on est focalisé sur Bully, hein, mais on ne sait pas. Hein. Ça se trouve, Bully est un paravent, un leurre. Et il y a... Et ben, même s'il négocie peut-être avec Bully, et derrière, Mark Keller a un truc beaucoup plus abouti avec quelqu'un d'autre qu'on ne connaît pas, ou qui est peut-être très bien, ou qui est peut-être très mauvais, on ne sait pas. Mais c'est vrai que Bully, dans le truc, il a... Bon, il a l'air con, hein, voilà, on va le dire.
Son projet fait pas rêver.
Mais le mec a quand même pignon sur rue. C'est pas un obscur homme d'affaires laiton, Roman Loban, qui n'existe
c'est
pas.
C'est un mec qui a vraiment des ronds, mais sauf que c'est un mec clairement qui gère en football. Et il est clairement
et
là
surtout,
dans le foot pour gagner des ronds.
Et surtout, il y a la multipropriété. C'est ça le nœud du problème.
Le nœud principal du problème, c'est pas
parce que c'est peut-être Bully
qui est ce mec-là. C'est le principe même de la multipropriété. Et donc du coup. L'histoire un peu bégaye, mais on a joué à Troyes, on va bientôt jouer à Lorient, qui sont deux clubs qui sont partie prenante dans de la multipropriété. Lorient bientôt.
City pour Troyes.
C'est ça, City qui a combien 12 clubs ou 13 clubs dans le City Group.
Incompréhensible, City.
Il y en a partout, c'est dispersé sur toute la planète. Et on le voit bien, quand Troyes a eu des difficultés, ils se sont pas fait prêter des super cadors par City. Ils ont eu, et quand City a décidé que pour virer Irles, on allait mettre un obscur entraîneur néo-Z, c'est ça, ou
Australien.
C'est parce que City Group a décidé que c'était ça qu'il fallait mettre à la place. Le mec, à part le coup d'éclat de la première victoire à la Méno, ça a été le néant total. De ce mec-là, et donc du coup ils sont pas là pour sauver les clubs d'un échelon à l'autre, ils s'en foutent, ils sont là pour avoir un club pour faire éventuellement éclore quelques jeunes selon que t'es au deuxième ou au troisième niveau.
Mais en fait c'est même pas pour faire éclore des jeunes pour chez eux,
non,
c'est pour
alimenter un autre de la galaxie.
On a ce mec sous contrat, peut-être qu'on peut lui faire prendre un peu de valeur pour qu'il y ait un club moyen de deuxième division.
C'est même difficilement compréhensible quelle est la stratégie, mais c'est vrai, il y avait un Stubiste dont j'ai oublié le pseudo qui avait fait un petit récap de ce que City avait apporté à Troyes, et les plus gros transferts, et qui sont pas des noms ronflants, c'est des mecs qui sont reprêtés immédiatement dans d'autres clubs de la galaxie et qui sont juste venus à Troyes signer pour repartir. Enfin, c'est vraiment de la magouille. En fait, moi, ça me fait penser un petit peu à de l'optimisation fiscale. C'est-à-dire qu'on optimise un petit peu la gestion des contrats, des transferts, en déplaçant les joueurs comme on déplacerait des
trucs. C'est pour contrôler le fair-play financier.
Bah, je ne sais pas ce qu'il veut faire. Moi, je pense que c'est aussi essentiellement pour que plein de gens se prennent du pognon sur les transferts. Mais
ce qui est surtout, ce qui est certain, c'est que les clubs qui sont dans ce genre de multipropriété, qui sont pas le top club, donc pas la haut de la pyramide, eux, ils renoncent à toute ambition sportive. Le but du club sportivement là, nous, chaque année, parce que ça reste un club de football, même si c'est une entreprise, c'est de faire la meilleure saison sportive possible. C'est ça qu'on veut, que l'équipe une soit le mieux classée possible.
C'est notre projet.
Quand t'es dans ce genre de structure-là, ton but, ton objectif à la fin de la saison, c'est pas forcément d'être le mieux classé. Ton objectif, peut-être, c'est d'avoir bien fait jouer un certain nombre de joueurs pour qu'ils puissent revenir.
De se maintenir quand même, parce que c'est embêtant.
Oui, faut pas descendre trop bas non plus, mais faut pas espérer. Et normalement, le club maison-mère doit quelque part t'es un petit peu sa maîtresse qui l'entretient, quoi, tu vois. Il va te donner suffisamment de ronds pour que tu puisses rester propre et porter des belles tenues, mais ça va.
Mais tu t'installeras pas à la maison, quoi.
Tu t'installeras surtout, sûrement pas à la maison.
Et c'est pas toi qui vas au festival de Cannes avec Bibi, quoi.
Et il partira pas en vacances avec toi. Hein. Ça c'est à peu près certain. Et mais du coup voilà, mais leur but évidemment là quand 3 descend en Ligue 2, City Group va pas les laisser descendre en National. Ils vont mettre des ronds s'il y a besoin de mettre des ronds, mais vraiment le minimum vital. Le but, c'est faire du trading de joueurs et donc du coup d'avoir une ferme d'élevage de joueurs. On en est là, quoi.
C'est ce que le nouveau président de Lorient a plus ou moins dit de façon explicite, qui a été sorti, Ferry. Le président qui a vendu a dit non, mais pas du tout, on fera pas de trading. Et le mec, je sais pas, il y a un SMS qui a fuité où il lui dit clairement, il lui explique clairement ça, on s'en fout.
Il est à Bournemouth.
Ouais, Bournemouth.
Ils ont acheté un Wango Ouattara pour 27 millions d'euros. Donc il est passé d'un club à l'autre de la même galaxie, quoi, pour 27 millions d'euros. Donc tu vois que les fonds, ils sortent de la poche droite pour rentrer dans la poche gauche.
Je parlais d'optimisation fiscale.
C'est absolument magnifique.
Après, dans ce genre de galaxie de club, moi je pense que c'est une vaste fumisterie qui ne marche pas. Le seul problème, c'est que au milieu, il y a un club anglais qui touche des millions, des dizaines, des centaines de millions d'euros de droits de télé, et les mecs savent pas quoi faire du pognon, donc il faut qu'ils achètent, qu'ils vendent, qu'ils fassent tourner le pognon qui rentre à cause des droits télé. Et un peu le problème du foot actuel, c'est aussi que l'Angleterre est gavée d'argent, achète des joueurs. Enfin, alors on a parlé de Sanson avant, un mec qui est quand même franchement un super joueur de football, qui a démontré à Marseille, qui a redémontré qu'il a réussi en 6 mois à se battre au Racing, et qui se retrouve avec un contrat en or à pas jouer à Aston Villa, qui est un club de merde. À un moment, il faut arrêter de regarder le championnat anglais, arrêter de leur donner. J'ai l'impression d'être Paolo là, tu vois.
surtout qu'en France, nous, je vous rappelle qu'on aura bientôt la renégociation des droits TV, et je pense qu'on va tomber de notre chaise quand le montant va être annoncé. Il va être ridiculement petit.
Quel Canal Plus sera pas là déjà?
Ça va être ridiculement petit. C'est-à-dire qu'un championnat de France qui est actuellement toujours à la 5e place, mais qui est entre la 5e et la 6e place des championnats les plus intéressants. En termes de...
Ouais, attends, il y a un championnat de France où il y a quand même 60 millions de Français qui potentiellement, alors, ne sont pas des foot, mais qui regardent. On va dire le championnat de Portugal, il y a combien de personnes au Portugal? 3, 4, je ne sais pas, on s'en fout. C'est pas eux qui vont... Genre, le championnat portugais, en termes de marché intérieur, c'est nul. Ouais, France reste quand même un pays avec un énorme potentiel.
Ce qui intéresse surtout le championnat de France, c'est que la France reste un des plus gros pays, si ce n'est le plus gros pays formateur du football mondial, qui arrive à sortir des pépites en veux-tu en voilà, grâce à nos centres de formation qui ont été copiés mais pour l'instant pas encore égalés. Et du coup, ça a un intérêt pour ces gros clubs là, c'est d'investir dans des championnats comme ça qui peuvent sortir des pépites en veux-tu en voilà. Il y a la France et il y a le Brésil qui sort des pépites en veux-tu en voilà, mais sinon les autres pays,
le Portugal, on va dire, il y a Portugal,
c'est pas les Anglais ou les Allemands qui restent dans leur championnat et qui ne bougent jamais du championnat de la Bundesliga ou très peu, c'est pas ces pays-là. Il y a un peu les Hollandais aussi qui arrivent à former des joueurs intéressants.
Oui, très peu.
Les Italiens restent évidemment en Serie A, ne bougent jamais non plus, c'est un peu comme les Allemands. Donc du coup, c'est un intérêt le championnat de France, mais personne veut payer pour le regarder, et tout le monde veut regarder, c'est toute l'Afrique, c'est toute l'Asie, c'est toute l'Amérique qui veut regarder la Première Ligue, et qui du coup, parce que les droits TV domestiques de la Première Ligue sont élevés en Angleterre, donc les Sky et autres, BT One, tout ça, mais c'est à l'étranger, la France à l'étranger, c'est pas pour le match du samedi 13h, regardez soi-disant... dans les provinces chinoises, ça fait rien.
Et encore, on a Mbappé, Messi cette année.
Oui.
Quand Messi sera plus là, le public étranger.
Évidemment, les droits.
J'imagine qu'ils auraient pu venir pour voir ça. Et en fait, ils sont même pas là.
Bah, en même temps.
Ah, si, un peu, mais
quand, c'est pas, quand ils sont plus là, foutu Angers-Ajaccio samedi 13h.
Dur, quoi. Non, mais même au-delà de ça, en gros, s'il n'y a pas Paris qui joue, ça les intéresse pas.
Évidemment.
Même si c'est Lyon-Lens, ça va pas les intéresser.
Clairement, ils ne connaissent pas les joueurs, ça les intéresse pas. Il n'y a aucun joueur bankable, aucun joueur du top mondial. Alors qu'en Angleterre, notamment pour l'Afrique, il y a les meilleurs joueurs africains jouent en Angleterre. C'est clair et net. Donc l'Afrique veut voir les meilleurs joueurs africains, et c'est normal, ils sont là-bas. Et l'Asie, ils n'ont aucun joueur connu, mais par contre, eux, ce qui les fait rêver, c'est les meilleurs joueurs mondiaux, et principalement, ils sont en Angleterre, et si c'est pas l'Angleterre, c'est l'Espagne. Parce que c'est l'endroit où il y a le plus de thunes. Et du coup, ça fait un cercle vertueux. Ils ont plus de thunes, ils payent mieux. Donc du coup, ils ont plus de... tout le monde les regarde, donc ils ont plus de droits TV, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc autrement dit, on vous le dit, on est dans la merde.
Donc,
quels sont les scénarios pour la suite ?
Oui, bien, non. Quels sont les... scénario 1, on va dire, Marc Keller reste parce qu'il n'a pas réussi à vendre sous la pression du public. On n'y croit pas beaucoup. Hein. Il repart pour une saison, mais il n'est pas très motivé, je pense. Marc Keller, il a... Alors, est-ce qu'il a envie d'aller jusqu'au bout de son projet de stade ? Au moins... Dans
la fin du projet de stade, c'est quand c'est 2025 ou 26
26, je crois. Ouais. Enfin, est-ce qu'il a envie d'aller jusque-là, au moins en restant autour du club ? C'est quand même, c'est un peu son bébé, le projet de stade. Je sais pas. Scénario 2, Marc Keller vend une part minoritaire à un actionnaire, je sais pas, Belly ou un autre, et il reste président, et dans 3 mois, il part en vacances avec Jean-Michel Aulas.
C'est ça.
Et scénario 3, tout est déjà fait. Hein, vous avez peut-être sûrement entendu les grésillements sur votre téléphone quand vous faites des visios. Tout est joué, tout est écrit. Hein, c'est le grand reset, comme dirait J.P. Darkie. Et le club est déjà vendu, mais on le sait pas. Est-ce que ça, c'est possible aussi hein ?
Marc Keller, c'est l'as de négociation de transfert en sous-marin. Est-ce que pour les négociations de vente, il arrive aussi à faire garder le silence à tout le monde ? Peut-être. Hein.
Est-ce que Belly est un écran de fumée, comme on en a eu souvent dans les transferts, où on annonce des joueurs qui viennent jamais, et derrière, paf
Oui, il a quand même confirmé qu'il a discuté avec les gens avec les représentants de Chelsea. Lors de la première annonce...
Non, à Londres, c'était...
Ouais, voilà.
Sachant qu'il a discuté avec beaucoup de monde. Ouais. Ça, c'est aussi avéré. Marc Keller a rencontré beaucoup d'investisseurs potentiels. Il en a recalé un certain nombre. Un certain nombre l'ont recalé qu'il ne voulait pas venir ici. A priori, il a déjà refusé des offres parce qu'il estimait que c'était les mauvaises personnes pour reprendre le Racing. Il avait parlé notamment de Chinois, je crois, à un moment, qui était intéressé à un projet à la Sochaux, sûrement. Ouais.
J'espère avec du Paris Sportif derrière. Ça ferait rêver.
Les crypto-monnaies.
Oui.
Donc, voilà. En tout cas, voilà, ce qui est sûr, je pense qu'on a été clair. Je sais pas qui peut...
Parce qu'on en a pas parlé, qu'il y a eu une contestation quand même à 3. Oui. À 3, les ultras ont protesté avec une énorme banderole non à la multipropriété.
C'est le bon endroit pour le faire, en plus.
Voilà, et avec des petites banderoles aussi, avec des messages qui allaient dans le même sens, dont une qui ciblait expressément Ted Belly. Et d'ailleurs, la même journée de championnat, à Lorient, ils ont fait justement des banderoles contre le mec de Brandsmouth, là. Et ça se réveille en même temps.
Sauf que chez eux, c'est trop tard.
Chez eux, c'est vendu. Il a payé 40% du club pour 10 millions d'euros. 40% de Lorient, tu te l'achètes pour 10 millions d'euros. Ça valorise pas Lorient à...
C'est pas énorme.
Ça valorise Lorient à peu près à 25 millions d'euros.
Non, c'est pas...
C'est le prix de Diallo, quoi.
Sachant que quand t'achètes le club, t'as les actifs du club. C'est-à-dire que l'actif, c'est les actifs joueurs. Notamment. Combien tu mettrais pour acheter le Racing Club de Strasbourg ? Combien tu peux le valoriser, sachant que actuellement le capital il a été mis par Marc Keller et ses amis, et Keller l'a toujours dit, il a mis que dalle. Hein. Mis bout en bout, il a dû. Avec les différentes recapitalisations, le mec il a pas mis 1 million d'euros dans Racing.
C'est évident.
C'est évident, il a dû mettre, s'il a mis 600, 700 000 balles, c'est le bout du monde.
Par contre, il y a 10 ans de boulot, enfin même plus que 10 ans.
Il y a 10 ans de boulot, et donc du coup, c'est normal que quelque part ils veulent revenir sur leur investissement. S'ils partent, ils veulent donner. Là, je pense que l'objectif à Keller, il est double. C'est évidemment, il veut rentrer dans ses ronds et se faire payer pour ses 10 ans où il a bien maintenu le club et il a eu un projet qui est quand même admirable, il faut le dire. Et en même temps, pas le filer à n'importe qui. Quoi. Donc il a ce double enjeu.
Mais est-ce qu'il va réussir à
combiner les deux ?
Combiner les deux.
C'est le dernier grand numéro d'équilibriste de Marc Keller avant la FFF.
Si on écoute les gens du micro trottoir, c'est de se dire Keller pourra peut-être renoncer à la méga culbute, il pourra faire une culbute machin, mais le vendre à un mec un peu sérieux, tu vois, il serait capable de dire ouais bah je suis pas obligé, je pourrais le vendre à un débile et me faire 10 millions et me faire une culbute de ouf, mais je sais, et derrière je le vends effectivement à une triade chinoise et puis je m'en rends. Ou alors il pourrait dire tiens, je prends un truc, je prends moi pour ma pomme, je prends 3 millions et puis c'est cool. Et mais je le vends à un mec où je pense que le projet est sérieux sur le papier, mais après une fois que c'est vendu
ça serait quoi le repreneur idéal en fait, parce qu'en fait on
le repreneur idéal il y a toujours un nom qui circule, c'est la famille Mac, tu vois, c'est un mec local qui a vraiment des ronds et tout. La Soprema, mais le mec s'en branle complètement du football, il prend une loge et il prend 3 panneaux à la méno pour faire plaisir. Mais fondamentalement, le mec ne s'intéresse pas au truc. La famille Mac, ils prennent une tribune, donc c'est déjà un peu plus gros au nom d'Europa Park, mais ça reste pas. Ils ont financé le stade de Fribourg, hein, c'est ça.
Oui, c'est l'Europa Park Stadium.
Voilà. Ils ont mis plus de ronds déjà à Fribourg que
le stade n'a pas coûté très cher. Hein. C'est aussi un débat qu'il y a eu sur le jeu.
Ouais, c'était moins de 100 millions.
Hein. Ah non, mais c'est même pas 70. C'est fou, hein. Genre, il coûte rien.
Ah, mais quand il va s'effondrer le stade dans 5 ans, avec leur béton à moitié coupé à la flotte.
Et j'ai lu un message, un chouïs qui m'a bien fait rire, qui disait qu'il était absolument contre un repreneur étranger, sauf si c'est les gars d'Europa Park. Là, un peu
trans. Ou alors les mecs du Bayern. Ah, yo.
Non, moi je pense que l'idéal, c'est un mec qui vienne. Alors, on va dire l'idéal, ce serait le match total. C'est un mec qui serait amoureux du Racing. Il dit, moi j'adore le Racing depuis tout petit. Il a une casquette. Non, mais ça on n'y croit pas trop. Mais un mec qui serait amoureux du Racing, c'est sûr, je veux dire, voilà, le mec qui vient parce que c'est son kiff, le foot, le Racing. Mais même un mec qui vient en disant, moi, voilà, j'avais envie de me mettre dans le foot. Enfin, j'ai du pognon, je veux me mettre dans le foot. Je me suis intéressé à Strasbourg, il y a quelque chose qui m'a plu, mais moi mon truc c'est de genre je veux faire quelque chose du club. Alors, un mec qui va nous dire on va jouer à la Ligue des Champions, on nous l'a déjà dit, on n'y croit pas. Un mec qui dit moi j'ai envie d'essayer de surperformer avec Strasbourg, d'essayer d'accrocher un peu la Coupe d'Europe comme on a pu faire l'année dernière, quelque chose, un projet comme ça. Tu vois, alors tu dis bah ouais le mec ça serait pas mal, quelqu'un qui s'investisse pour le football. Après tous les projets où le mec il dit où il le dit pas, mais genre où je veux faire du trade, moi je veux gagner du pognon sur les joueurs, je veux faire une galaxie de trucs, je veux piller le centre de formation, bon ça c'est pas intéressant. Le problème
après,
c'est
vraiment gagner du pognon dans le foot, il y a pas beaucoup de clubs qui gagnent du pognon. Une petite statistique qui est intéressante pour nos amis auditeurs, il y a 40 clubs de foot pro, un peu plus, 45 en France quand tu comptes les mecs en national. Il y a 45 clubs qui sont déficitaires structurellement en France. Strasbourg, l'année dernière, c'est moins 10 millions avant la vente des joueurs. C'est-à-dire que sur la saison, tu dépenses 10 millions d'euros de plus que tu gagnes.
Sachant qu'on ne dépense pas beaucoup d'argent.
On a marqué l'air, je vous rappelle, ouais, comme président. Et donc tu vois, c'est structurel. Avec les ventes des joueurs, on a fini la saison à plus 2. Donc on a fini bénéficiaire. C'est à la fin qu'on vérifie, mais les 45 clubs hors vente de joueurs, les 45 sont déficitaires. Certains le restent même avec les ventes de joueurs, mais ils restent déficitaires. Mais c'est-à-dire que structurellement, le football français, et même un paquet de football, structurellement, tu dépenses, vu les salaires des joueurs, tu dépenses plus que ce que tu gagnes. Je vois. Les mecs, ils peuvent gagner du pèse, mais ils vont gagner du pèse sur des opérations comptables, sur de l'argent indirect, sur de la com, sur des choses comme ça. C'est là où les mecs espèrent, mais c'est pas sur la gestion d'un club. La gestion d'un club de foot, si tu prends juste un club de foot pour le gérer, mais putain, faut être con, hein, c'était riche, mais, faut être débile, mais pour prendre ça, c'est un truc que tu vas perdre du
mais nez, pourtant c'est le portrait idéal brossé par Gigas, donc en fait
donc voilà,
ça arrivera pas.
Ah non, moi je dis pas, le mec,
pour moi ça n'arrivera pas,
un mec qui veut,
donc, mais non, on aura forcément je sais pas, un fonds de pension étranger.
Moi, tu me fais gagner au méga Starbucks, Lotto, tout ce que tu veux, à 10 milliards d'euros. Je rachète pas le Racing. Je suis overblindé. Je pourrais perdre 20 millions par an au Racing, que ça m'en toucherait une sans bouger l'autre. Et je le ferais quand même pas parce que c'est. Et pourtant, je suis un amoureux fou du Racing, mais parce que c'est un bouffre à pognon. Keller, il essaye de. C'est pour ça que le mec, il freine partout. Mais t'as l'inflation des salaires des joueurs, la masse salariale du Racing depuis 2017, elle monte en flèche. Là, on a des joueurs qui sont à plus de 100 000 et même à 150 000. Avant, on n'avait aucun joueur qui dépassait les 100 000.
Ouais, alors, il y a peut-être un mec qui va réussir à gagner du pognon avec le football. C'est Marc Keller.
Oui.
Parce que du
si
coup,
si t'achètes un petit club et que tu le valorises très cher, là, tu peux gagner du pèse.
Parce que tu as, on peut citer aussi l'exemple de la famille Glazer, hein, puisque Manchester United est à vendre, ou quasiment vendu. Les mecs ont racheté le club, je crois que c'était aux alentours de 1 milliard. C'était un peu moins, je crois 900 millions, moi je dirais, dans mes souvenirs. Ils ont fait un...
Des prêts.
Ils ont un leverage buyout, je crois, on dit ça en anglais. Donc ils ont fait payer tout l'achat par le club, c'est-à-dire en ayant des résultats de merde. Et là, ils risquent de le vendre, genre 4 ou 5 milliards. Donc c'est-à-dire que déjà, ils vont faire x5 pour un truc qu'ils n'ont pas payé. Donc c'est on va dire c'est quasiment
sachant
5 milliards.
Sachant qu'ils rendent pas le club dans un meilleur état qu'ils l'ont pris sportivement.
En plus.
Mais là c'est ça c'est parce que c'est une énorme.
Parce que c'est Manchester. Là c'est parce que c'est le football anglais.
En fait c'est parce que tout le football anglais a progressé financièrement que c'est un peu comme les franchises NBA qui se vendent maintenant. En sport US même la plus pourrie actuellement. Tu vas la vendre pour des sommes faramineuses.
Bah, une franchise NBA, tu peux l'avoir rachetée, avoir fait de la merde pendant 4-5 ans et la vendre 3 fois plus cher.
Mais par contre.
Mais tu peux pas tomber. Alors comment au foot
Bah, là, il y a le club de baseball de Oakland qui a déménagé, ils se sont mis d'accord, Las Vegas. Donc les Athletics d'Oakland vont à Las Vegas. Ils ont trouvé un terrain sur le strip, ils vont construire un stade de baseball. C'est 500 millions de dollars payés en partie par les fonds privés et en partie par le gouvernement du Nevada qui va mettre la main à la poche et ça se passe.
Mais Las Vegas, ils ont déjà récupéré une franchise en NHL, je crois, il y a quelques années.
Oui.
Là, on parle d'une franchise aussi en NBA, en basket.
Tout à fait.
C'est
un autre monde et effectivement il y a des entreprises comme ça qui le ticket d'entrée coûte très très cher et c'est vraiment réservé à des très grosses fortunes. Mais le seul moyen effectivement de se faire du pèse complet, c'est d'acheter des clubs et de les revendre quoi. Là ça marche, mais sur un club et de propriétaire, le Qatar qui gère extrêmement mal le PSG, tout le monde en est convaincu. Le truc global, une fois qu'ils, parce qu'un jour ils vendront ce jouet-là, une fois qu'ils l'auront joué avec et qu'ils l'auront bien cassé, ils vendront le PSG, ça leur a fait un trou dans la saison. Ils auront peut-être gagné, ils ont sûrement gagné en notoriété. Plein de gens maintenant savent placer le Qatar sur une carte et on sait que le Qatar est associé globalement au sport, ok, mais en termes de thunes pure, bien malin celui qui arrive à calculer le ROI là-dessus pour voir si ça valait le coup de dépenser autant de pognon pour en gagner par temps et placer le Qatar sur la carte et sur l'échiquier mondial du sport. Je sais pas. Je suis bien malin celui qui arrive à calculer ça. Mais en tout cas, en thunes, c'est sûr que ça va leur coûter du pognon. Et notre ami Ted, pour en revenir à lui, j'ai bien l'impression que c'est un Ricain qui comprend rien au foot. Il y a une très bonne série sur Apple TV
qui s'appelle Ted
Lasso dans ce genre-là. On vous conseille. Et où j'ai l'impression qu'il comprend pas grand-chose. Il arrive dans un milieu, il pense appliquer les méthodes des sports US qui sont complètement différents, vu qu'il n'y a pas cette notion de relégation, de choses comme ça, les appliquer sans. Et là, il se dit j'ai des thunes, il y a un club français.
Il me faut un club français, voire un club allemand. Je vais acheter Strasbourg, ça fait les deux.
C'est ça. Et il essaye. Voilà, pareil, là encore bien malin celui qui sait dans les têtes de Marc Keller ce qu'il en est maintenant. Est-ce que c'est déjà décidé? Est-ce que c'est à venir? Je ne sais pas.
Je ne sais pas. Eh ben, c'est un petit peu le mot de la fin. Je pense qu'on a fait le tour. Il n'y a plus rien à dire. De plus, je suis assez content qu'on ait réussi à mettre un petit peu de pessimisme dans cette optimiste ambiance du maintien. On se retrouve évidemment après la fin de la saison. Maintenant.
Oui, pour le Radio Stoop de clôture de la saison.
Ouais, le bilan. Ça sera une orgie, hein, avec tout l'argent que Ted Bully nous aura filé.
Pour fêter le maintien.
Avec tout l'argent des éco-cubes qui n'aura pas été dépensé dans le Tifo contre Paris. Et ça en fait des thunes, croyez-moi.
Voilà. Continuez à jeter vos
gobelets dans nos poubelles. Pour voilà.
ou sur le SLO, c'est pareil. Et bien sûr, allez Racing. Allez Racing.
Il doit y avoir une équipe professionnelle en Alsace, on sait bien que ça ne peut pas être une autre équipe que le Racing.